une caserne de l'armée française du 10 septembre 67 au 31 décembre 68. Donc je n'ai qu'une vision tout à fait biaisée de 68, même si. Ce soir, nous écouterons le professeur Roger Gilles, doyen de la faculté de médecine et pharmacie de Poitiers, le docteur Pascal Boissel et mon collègue Pierre Sureau. Eh bien, et moi, nous allons essayer de nous partager le privilège d'échanger avec vous. Que vous dire de mai 68 ? Je ne vais pas vous parler de l'unité dans laquelle je servais comme je pouvais la nation, le pays, mais en ma qualité d'ethnologue ou d'ethnographe, comme vous voudrez, peut-être je pourrais évoquer simplement l'image et la représentation du médecin, et non de la médecine, du médecin, en particulier en milieu rural. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Claude, on ne discutait pas, n'est-ce pas, avec son médecin. Le médecin en milieu rural, en ville, je ne sais pas trop, moins bien, c'était quelqu'un en général en costume trois pièces, qui était extrêmement pris, jour et nuit, qui inspirait le respect. Le respect lui était dû et il l'inspirait par la force des choses. Peut-être respect qu'il a pas mal perdu aujourd'hui, un peu comme les enseignants, il y a 20 ou 30 ans, les instituteurs. Donc là, il y a eu beaucoup de changements dans les rapports, dans les rapports humains entre médecins et patients et soignés, et gens et populations en général. Le médecin était à la fois craint, respecté. Il était aussi l'une des figures du notable. L'une des figures notables, je dirais pas au-dessus du prêtre, mais pas mal, en tout cas au-dessus des enseignants, en tout cas pas l'égal des enseignants, pas l'égal des prêtres non plus, mais quelque chose, une position, une posture un peu complémentaire. Le médecin de campagne était quelqu'un qui se dévouait en principe sans limite, jour et nuit, un peu par la force des choses, vu les moyens de locomotion, vu l'éloignement, vu aussi le nombre assez restreint de médecins. Tout dépend des campagnes, bien sûr, mais je parle un peu du grand centre-ouest, si vous voulez. Le médecin était, je vous dirais, il était un peu tout pour la population. Il était un peu tout. Conseiller, mais aussi celui qui détenait en quelque sorte presque, je parle du côté de la population, je ne parle pas du côté du médecin, hein, presque un droit de vie et de mort sur le patient, selon l'orientation qu'il allait donner, par exemple, d'aller dans une clinique, petite maternité de campagne, ou qu'il avait pratiqué lui-même un accouchement difficile en certains endroits, quelquefois en laissant sa voiture à 500 mètres du lieu où devait se passer l'accouchement, encore dans les années 60, 65, 68, 70. Donc, personnage absolument indispensable, qui cumulait parfois d'autres fonctions d'élu. Alors là, il avait un pouvoir qui était accru. S'il était conseiller général ou député, il n'y en avait pas beaucoup de députés, bien sûr, mais s'il était conseiller général, il détenait, par exemple, en milieu rural, l'accès aux bourses d'études pour les familles, donc une sorte de poids supplémentaire. Et il pouvait être aussi un directeur de laiterie, de beurrerie, d'entreprise agricole, s'il possédait un peu de terre, s'il était lui-même là-dedans. Et comme c'était l'homme de science, il était docte, c'était l'homme qui savait. Donc, on ne s'opposait pas à lui. En outre, il pouvait aussi participer à la vie intellectuelle. Dans les sociétés savantes, on trouvait souvent des médecins, un peu partout en France, Avec un rôle d'historien, c'est assez étonnant parce que les historiens disaient, nous, on n'a pas le droit de faire la médecine, mais les médecins, eux, ils ont le droit de faire de l'histoire avec autorité, ou de faire de la linguistique, ou de faire de l'archéologie. Donc, c'était des personnalités vraiment totales qui participaient à la vie dans sa globalité. Image qui est un peu tombée aujourd'hui, qui a bien changé. Les médecins se sont beaucoup rapprochés de la population. Il y a encore des costumes trois pièces, rarement un nœud papillon, mais voilà, la société a changé. Et mai 68, je crois, a été le point de départ de ce changement, préparé un peu avant. Voilà. Monsieur le professeur Gilles. Vous pouvez rester, oui. Si je ne vais pas choquer, vous pouvez y aller.
Oui, alors je ne sais pas trop quel témoignage je dois donner. C'est un peu difficile. D'abord, un témoignage médical. Alors, lequel ? Vu du côté des étudiants ? Vu du côté des internes ? J'étais à l'époque président d'internat du CHU de Poitiers, monsieur le directeur. Vu du côté des professeurs, évidemment des professeurs que nous fréquentions en tant qu'interne, mais ça ne suffit pas. Est-ce que le point de vue, il faut se mettre du côté universitaire, ou se mettre du côté hospitalier? Et puis enfin, un témoignage local ou un témoignage national? Alors, c'est vrai que je n'ai pas la prétention de faire de l'histoire, parce qu'on ne peut pas faire l'histoire de ce qu'on a vécu, et c'est extrêmement compliqué, mais on peut au moins narrer. Voilà. Bon, c'est une narration qui est bien sûr transformée par le temps, comme toute narration. Elle a fait l'objet d'une éducation. Et donc, effectivement, elle est un peu pétrie, et peut-être qu'elle est auréolée d'un peu de légende. Mais il faut la prendre comme elle est. En tout cas, le sujet m'a incité à me replonger dans quelques archives que je pensais mortes et que j'ai retrouvées encore vivantes. Et alors finalement, je pense que je vais centrer mon propos sur Poitiers, finalement. C'est le seul lieu que je n'ai pas dit essayer de balayer autour de lui. Alors, le contexte de mai 68. Le contexte de mai 68, mouvement d'étudiants, plus tardivement d'ouvriers, et au sein des étudiants, les étudiants en médecine. Les étudiants en médecine, on peut dire qu'ils emboîtent le pas. Ils emboîtent le pas, tous, parce qu'ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Alors, je crois qu'on peut participer aux événements de mai 68 sans être 68art. D'ailleurs, qu'est-ce qu'être 68art ? C'est peut-être être convaincu philosophiquement, je ne sais pas, par mai 68. Mais dans le vécu, il n'y a pas le choix. Au moment où mai 68 déferle, il faut être présent. Et quand on est président de l'internat, comme je l'étais, avec une population d'internes fort importante, 18 internes titulaires au CHU de Poitiers, les faisant fonction d'interne n'ayant pas le droit de nous fréquenter, il est bien évident que ça fait une population difficile à maîtriser. Alors, le deuxième point, c'est que à l'époque, le sentiment facultaire prédomine. On n'est pas du tout dans une idée de l'université avec un grand U. D'ailleurs, c'est une idée lente. Hein. Les facultés ont la vie dure, bien sûr, parce qu'elles sont la construction des identités. Bon, la dernière loi d'août a essayé, pour une dernière fois, de casser les facultés. Bon, au profit d'une grande idée de l'université. Néanmoins, si le sentiment facultaire prédomine, on ne peut pas dire que l'identité soit synonyme d'un mépris d'université, mais plus d'une université comme une confédération, comme une escadre avec un navire amiral. Pas comme un grand paquebot comme l'Erika, ça peut couler, ça peut être là, mais comme une escadre. Et donc, effectivement, il est très intéressant de voir que se crée très vite à Poitiers un CLIF. Alors, un CLIF, c'est un comité de liaison interfacultaire, ce qui est quand même très, très intéressant, peut-être une idée qu'on aurait pu garder, et qui déjà faisait ressentir ce besoin d'un partage. Et puis, toujours dans ce contexte, étudiant en médecine emboîte le pas, il faut bien qu'ils se posent quelque part. Alors, ils vont à la rue Sainte-Opportune. À la rue Sainte-Opportune, où il y a maintenant la faculté de droit, ils s'installent dans les locaux de la rue Sainte-Opportune, qu'ils interdisent bien sûr à tout autre passage. Et effectivement, l'université Bonne Fille ou la faculté, on ne sait plus trop qui paye quoi, laisse les téléphones à disposition. C'est extrêmement important. Les fils téléphoniques n'ont pas été coupés, comme quoi il y avait beaucoup de complicité dans la nation. Et donc, les étudiants se trouvent là avec un arsenal téléphonique à leur disposition. Et alors, ils ont une demande immédiate. Dès leur première réunion, ils demandent immédiatement une cogestion paritaire. Ça, c'est aussi un des mots magiques de mai 1968, on verra comment ça va se couler. Voilà pour le contexte, en quelque sorte, spatial côté étudiant. Le troisième point, c'est en face, qu'y a-t-il ? Alors, en face, il y a les mandarins. Alors ça, c'est une expression qui a fait Florès, bien entendu. Alors, les mandarins, qui c'est ? Les mandarins, ce sont les professeurs de médecine. Ce sont des mandarins. Alors ces mandarins, il y a plusieurs types de mandarins, quand même. En effet, 1968, nous sommes à peine à 10 ans de l'ordonnance de mai 1958 qui a instauré le plein temps hospitalo-universitaire. Et pour que... Évidemment, tous les professeurs sont des médecins hospitaliers publics temps plein, ce qu'a créé l'ordonnance de 1958, il faut un certain temps, bien sûr. Les professeurs en place, ceux qui ont à la fois une clientèle libérale et qui sont professeurs à la faculté, et qui sont ou qui ne sont pas à l'hôpital, ne peuvent pas être débarqués d'un coup. À certains est proposée une intégration. Certains l'acceptent, d'autres n'ont pas les titres pour y accéder, et puis d'autres préfèrent rester dans le statu quo. Et donc, d'emblée, on sent que les étudiants, effectivement, ont une très grande sympathie pour les professeurs temps plein, ceux qui sont des médecins hospitaliers publics, que le mandarin, c'est plutôt celui qui est à la fois dans le privé et qui est dans le public, et cette cohabitation n'a pas que du bon, et on verra à Poitiers d'ailleurs comment ça s'est exprimé. Alors le symbole des mandarins, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les robes académiques. Bon, alors, vous savez, ce sont des robes qui sont très très belles d'ailleurs. Elles ont trois rangs d'hermine, parce que ça veut dire professeur. Hein. Un rang, c'est bachelier, deux rangs, c'est licencié, et trois rangs, c'est professeur. Vous voyez, c'est le LMD du Moyen-Âge. Alors, les robes de professeurs, elles sont rouges, apparemment noires, pour les professeurs titulaires de chaire, car la chaire, c'est un peu comme la cathèdre de l'évêque, hein, ça avait une existence corporelle, matérielle. Hein. Elles sont noires, apparemment rouges, pour les agrégés, et puis elles sont noires, tout simplement, pour d'autres. Enfin, en tout cas, pour les docteurs qui ont trois rangs d'hermine, mais qui n'ont pas un peu de rouge. Le rouge symbolisant quand même la... espèce de puissance, quoi. Et alors, ce symbole est fait l'objet d'autodafés, pas à Poitiers. À Poitiers, aucun étudiant n'a touché à des robes académiques. Il faut dire qu'il y en avait très peu, qu'il fallait les trouver. Et donc, c'était sans doute assez difficile. En tout cas, ils n'ont même pas manifesté le souci ni le souhait de rechercher les robes académiques. Mais à Bordeaux, ils ont amassé les robes académiques dans l'atrium de la faculté. Ils ont fait un petit feu de joie. C'est curieux que c'était sans doute après les premiers à réclamer le retour des robes. Parce qu'une thèse en civil avec un t-shirt, même à Lacoste, c'est un peu minable. Quoi. Voilà, bon, on préfère la robe académique. Hein. Bon. Alors, à Poitiers, forcément, on se rabat sur le symbole. Bon, il y a des mandarins, mais peut-être un peu plus de mandarins gentils que de mandarins méchants. Les robes académiques, elles n'ont pas encombré la vue. Bon. Mais alors, il faut un symbole. Alors, le symbole, c'est l'affiche. Et effectivement, les étudiants à Saint-Op, ils mettent une buvette, enfin ils ont le téléphone, une buvette, c'est extrêmement important pour survivre, ça, l'hydratation c'est basique. Hein. Et puis derrière, ils mettent « Abat le mandarina, vive l'orangina ». C'est vrai que c'était assez intéressant et que cette pancarte a persisté pendant tous les événements de 1968, c'est une érection au niveau du symbole. Voilà. Et puis, effectivement, il fallait aussi marquer le coup et les étudiants souhaitent rencontrer les professeurs lors d'une grande assemblée générale. Assemblée générale qui a lieu sur le campus Sciences. Et à cette assemblée sont présents, outre une grande partie des étudiants, le directeur de l'école de médecine, qui était un professeur de médecine non hospitalier, et son assesseur. Et son assesseur était le deuxième temps plein hospitalo-universitaire de Poitiers. Alors évidemment, il y avait là un contraste qui était assez étonnant, mais enfin, il faut bien effectivement clamer son mécontentement. Et puis, donc, certains étudiants commencent à invectiver assez durement le directeur de l'école de médecine. À ce moment-là, le jeune professeur, temps plein, hospitalo-universitaire, au-dessus de tout soupçon, se dresse de sa haute taille. Je connaissais bien, c'était mon patron. Et il dit, vous n'avez pas le droit d'insulter le professeur, et il donne le nom du professeur. La phrase fait l'effet d'une toxine botulinique qui paralyse l'amphithéâtre, qui ne dit plus rien. Et puis le directeur en profite pour dire qu'il a bien entendu la cogestion paritaire et qu'il accepte tout. Donc ne vous battez pas les enfants, vous voulez la cogestion paritaire, on va y aller. Après tout, plus on est de fous, plus on s'amuse. Bon. Ça, c'est moi qui le dis, bien entendu. Mais évidemment, du coup, toute résistance s'effondre. Il n'y avait plus rien à enfoncer. Un ennemi qui n'est plus un ennemi, qui ne résiste pas, c'est terrible, quoi. Ah, vous trouvez. Donc, tout s'apaise. Alors, c'est pas partout. C'est pas partout. Et en particulier, nous avons été très occupés à Poitiers et aussi ailleurs parce qu'on a appelé la fièvre nancéenne. Alors, à Nancy, le doyen de la faculté de médecine de Nancy, les étudiants envahissent la faculté, et puis il fait fermer la faculté. Donc, les étudiants sont enfermés. J'ai enfermé qui braille aux fenêtres. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et bien entendu, la presse nationale a relayé à grand renfort de textes ce doyen retardataire qui se permettait d'enfermer ses étudiants. Alors, à Poitiers, donc, à la suite de l'Assemblée générale, une commission paritaire de co-gestion se met rapidement en place. Alors, maintenant, voyons les moyens d'action. Alors, les moyens d'action, le premier, c'est vraiment le verbe. On n'a jamais autant parlé qu'en 1968. Il y a une profusion verbale qui est extraordinaire. Alors, il y a les assemblées générales... Bien sûr, des étudiants, il y en a une pratiquement par jour, mais ils se divisent en commissions. Commission pour l'internat, commission pour la première année, commission pour ceci. Et bien sûr, nous, les internes, qui étions qui sommes à la fois des étudiants et, comme on dit maintenant, des praticiens hospitaliers, enfin des médecins, quoi, hospitaliers en formation, nous sommes contraints de créer une commission. Parce que si on ne réfléchit pas pendant que les autres pensent, c'est vrai que rien n'est plus dangereux que cela. Et alors, ces assemblées générales, ces commissions, se réunissent tous les jours. Tous les jours. Pour discuter de tout. Alors, on verra quelques sujets. Mais, effectivement, il faut aussi, là, subir chaque jour les avalanches verbales de sujets qui, tout à coup, se prenaient pour des messies. Enfin, tous des gens pleins d'idées, quoi. Alors, il fallait les écouter. Il fallait prendre des notes. Il fallait aussi bien écouter pour résumer les positions. Sinon, ça ne faisait pas bien. Et puis, il y avait les étudiants et le monde du travail. Extérieur. Après, on viendra à l'hôpital, mais extérieur au monde universitaire. Là, nous n'avons pas beaucoup de souvenirs, mais un seul. Un seul, c'est qu'une escouade d'étudiants a essayé d'aller débaucher l'usine Michelin que nous avions la chance d'avoir à Poitiers, à l'époque. Et puis ça s'est assez mal terminé parce qu'il y a eu une algarade entre sans doute un représentant syndical qui ne voulait pas voir ses étudiants pénétrer évidemment sur le lieu. Et donc l'étudiant s'en est allé fort penaud. Il est vrai que c'était un idéaliste passionné, au sens de classification de maladie mentale. Mais évidemment, ce genre d'ambiance est propice à la mise en œuvre de ces personnalités. Aller haranguer Michelin, pour un étudiant en médecine, ça fait drôle, quoi. Se mettre devant et haranguer. Vous voyez, c'est vrai que le spectacle était assez étonnant, quoi. Donc, c'est au niveau de l'anecdote, mais elle est quand même significative. Alors, à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, ça se passe à plusieurs niveaux. D'abord, les internes sont sollicités par les syndicats hospitaliers. Les syndicats hospitaliers veulent bouger. Et, évidemment, ils dénoncent aussi l'autoritarisme qui règne. Comme il y a un autoritarisme à la faculté, à l'université, il y a un autoritarisme à l'hôpital. Tout est autoritarisme. Et puis, comme c'est sous les pavés la plage, l'autorité est très mal vécue. Alors, le 21 mai 68, l'internat se réunit en Assemblée générale, après avoir été requis par les syndicats de donner un signe fort de soutien aux revendications des syndicats. Alors, au terme d'une discussion auquel les internes, très prudemment, ont associé les chefs de clinique, c'est-à-dire les assistants, et puis les externes. Ça faisait comme ça, si vous voulez, un peu plus écuménique. Puis ça faisait jeunes en même temps, jeunes, mais jeunes déjà réfléchis, en quelque sorte. Hein. Puis ce sont des gens déjà en responsabilité. Alors, j'ai retrouvé le texte de la motion, il est assez intéressant. Les chefs de clinique, les internes, les externes, les hôpitaux de Poitiers, réunis le 21 mai 68, en Assemblée générale, conscient des problèmes posés par l'organisation des hôpitaux publics, vous allez voir un peu le discours, hein, conscient, je ne dis pas quel problème, mais il y en a, hein, c'est très important, soutiennent les revendications professionnelles du personnel hospitalier, on ne dit pas lesquelles, mais il faut quand même soutenir, parce que si vous ne soutenez pas, vous n'êtes pas gentil. Hein, demandent qu'une place soit donnée aux chefs de clinique interne et externe dans la gestion hospitalière universitaire. C'est vrai que tant qu'à soutenir, autant ramasser une petite partie du gâteau. C'était un peu normal. Et puis, alors là, la phrase qui montre, effectivement, qu'il y avait à cette époque ce qui a été complètement dépassé actuellement, c'est « des internes peuvent-ils faire grève ?» Aujourd'hui, c'est résolu. Mais à l'époque, ce n'est pas du tout résolu. Et malgré l'ambiance de mai 68, les internes pensent que leur métier est incompatible éthiquement avec une grève. Et ils disent, tenus par leur vocation hospitalière, là le mot est très beau, hein, vocation c'est quand même être appelé, ils assureront leur responsabilité dans les services. Mais, il fallait mettre une toute petite menace à la fin, in coda venenum, hein, ils restent néanmoins vigilants devant l'évolution des événements. Vous voyez un peu le genre de texte qui est assez intéressant parce que il signale une petite position de fronde, Mais finalement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi. Hein. C'est néanmoins une position de soutien. Les syndicats ont été contents, mais les internes ne rejoindraient pas un mouvement de grève. Ça n'était pas possible. Alors l'hôpital, maintenant. Alors l'hôpital, bien sûr, le personnel hospitalier bouge, nous l'avons vu. Les internes, eux, sont obsédés par une demande qui n'a jamais été satisfaite depuis. C'est qu'ils demandent à être présentés au conseil d'administration de l'hôpital. Ils n'y sont toujours pas. Hein? D'ailleurs, ils ont même oublié qu'ils l'avaient demandé. Mais ils sont à la commission médicale d'établissement. Ça, oui. Mais ça, ils commençaient à y entrer. Mais ils ne sont pas au conseil d'administration de l'hôpital. Alors, vous avez vu qu'ils soutiennent par la motion les revendications très faibles du personnel hospitalier. Ils ne font pas grève. Et surtout ils se disent que l'internat est une structure nodale dans l'évolution de la médecine, parce que c'est le pont entre la vie étudiante et la vie professionnelle. C'est vraiment la transition, le point de passage. Alors, ils décident de contacter tous les autres internats, et Poitiers fait un coup qui est très intéressant, puisque le jeudi 30 mai, nous avons rêvé de réunir à Poitiers tous les internats de France. Ben, nous en avons eu 10. 10 CHU qui se sont réunis à Poitiers. 10 associations d'internes. C'était très, très bien. Mais alors, nous nous apercevons là, et nous allons un peu y revenir, c'est qu'on n'y comprenait rien aux revendications. À tel point que j'avais pris des notes. En tant que président d'internat, je devais prendre des notes manuscrites. J'ai même retrouvé mon écriture de l'époque. Elle ne s'est pas améliorée depuis. Et dans ces notes, eh bien, effectivement, nous allons aborder très rapidement certains problèmes. Mais il y avait à Poitiers, Angers, Besançon, Bordeaux, Clermont, Dijon, Limoges, Nantes, Reims et Toulouse. Et dans cet échange de vues, on en conclut que nous avons passé en revue les problèmes, mais nous ne faisons pas de motion commune. Parce que nous sentons que dans le mouvement, il y a ceux qui veulent aller d'un côté, ceux qui veulent aller de l'autre. Et quand j'ai dit que tout le monde se sentait impliqué, puisque ça bougeait, il fallait y aller, c'était extrêmement important de savoir qu'il n'y avait pas d'accord sur des problèmes fondamentaux, et on va juste en voir quelques-uns. Alors, les revendications, on va terminer par là, elles étaient composites. Je crois que c'est le mot qui convient. Alors, je ne parlerai pas de la psychiatrie. Je vais surveiller ce que dit Boissel, après on verra. Bon, c'est un sujet qui me touche, puisque moi j'hésitais entre psychiatrie et neurologie, vous imaginez, donc attention. Donc à l'époque, j'ai dit, que fais-je, où vais-je aller, bon, etc. Bon. Alors, dans les revendications, et j'écarte la psychiatrie, on peut en faire une analyse stratégique et une analyse tactique. Alors, l'organisation universitaire. Alors, je vous cite un deuxième adage qui a paru dans une revue qui quand même traduisait la faiblesse des moyens, vous savez. C'était un papier extrêmement sobre. Hein, c'était vraiment un papier buvard.
Quoi, geste de l'air.
Ouais, c'était... Bon, j'ai récupéré deux bulletins d'information. La méfiance est un droit, la défiance un devoir, la confiance un luxe. Ça démarrait bien. Hein. Bon. Alors, une assemblée, l'organisation universitaire qui est prônée et qu'on va retrouver à peu près partout. C'est une assemblée plénière, parité, enseignants-étudiants. Très curieusement, à l'époque, on oublie qu'à l'université, il y a aussi des personnels, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers de service. C'est bizarre. La conscience de ce corps-là ne viendra qu'après. Et la parité, c'est enseignants-étudiants. Ça, c'est un premier point. Élire le doyen, bon, il était déjà élu, mais élu par l'assemblée plénière au premier degré. Élire le conseil de faculté, et il n'y a qu'une seule chose, effectivement. Alors, les étudiants donnent leur avis sur les recrutements. La seule chose sur laquelle ils consentent à laisser les professeurs en conclave, c'est les sujets d'examen, le choix des sujets d'examen. Mais les examens s'appellent contrôle des connaissances. C'est un élément qui est qui est extrêmement important. Alors, comment... Alors, cette assemblée plénière travaille, les commissions travaillent, et puis, effectivement, les vœux et les motions se succèdent à une vitesse telle qu'on se demande qui va les lire, parce que c'est multiplié par la France entière. Alors, il faut trouver des moyens de pression. Et finalement, le directeur de l'école d'alors, qui avait été hué, conspué pendant quelques instants, mais qui avait dit, vous savez, j'accepte la cotisation paritaire, fait encore un autre geste, et à la demande des étudiants, il s'engage à démissionner si les structures de cotisation paritaire ne sont pas reconnues dans les 3 mois. Et puis il s'engage tout de suite à ne plus réunir le conseil de fac dans sa version ancienne. Et il s'engage à ne plus prendre de décision sans avis du comité provisoire de cogestion élu par l'Assemblée plénière. Donc on voit que le système est paralysé, puisque il démissionne au bout de 3 mois, mais en attendant, rien ne fonctionne. Alors les étudiants auraient voulu obtenir plus. Les étudiants disaient, ce qu'il faut, c'est obtenir la démission du conseiller de fac. Ça, ce serait formidable. Il n'y a plus de conseiller de fac. Le directeur, non, on ne le réunit plus. C'est la même chose. Ah non, 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 on ne veut plus de conseiller de fac. Et alors là, le directeur, qui était très, très intelligent, a la parade. C'est qu'à l'époque, le conseiller de fac n'est pas élu. En son membre de droit, tous les professeurs titulaires de chaire. Donc, c'est inhérent à la fonction. Donc, le directeur de l'école explique et dit, si un professeur démissionne du conseil de fac, en fait, il démissionne de sa fonction de professeur. Donc, vous voyez qu'il ne peut pas démissionner, puisque vous ne voulez pas... Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, effectivement, le conseil de fac perdure. Alors, à l'époque, le mot « autonomie » est prononcé. C'est intéressant, parce qu'on l'a vu ressurgir là, récemment. Mais c'est l'autonomie des facultés. Ce n'est pas l'autonomie des universités. Vous voyez, université, système, confédéré. Alors, il faut un budget, mais il faut un budget qui sente bon, hein, c'est-à-dire qui sente public. Donc ce budget, il faut qu'il soit de Paris, répercuté à des gens autonomes. Bon, déjà, quand vous dépendez de l'argent de quelqu'un, hein, s'il vous plaît, bon, ben, enfin bref. Mais on imaginait une caisse centrale avec des budgets donnés à chaque faculté. Alors ça, c'est l'organisation universitaire. Ensuite, l'organisation des études. Alors, il y a des choses intéressantes, parce que c'est des points dont on parle encore aujourd'hui. La première année de médecine. Première année de médecine qui fait l'objet de beaucoup de débats. Alors, une division s'amorce entre les partisans d'une sélection juste après le bac et au bout d'un an de médecine. Eh bien, nous sommes le seul pays du monde à faire la sélection au bout d'un an. Parce qu'au bout d'un an, il y a 80% des étudiants qu'il faut qu'ils partent ailleurs, se recycler ailleurs. Partout dans le monde, c'est après le bac, c'est avant d'entrer qu'on sélectionne. Eh bien, nous attendons une réforme pour octobre 2009 et les étudiants ne veulent toujours pas sélectionner en France après le bac. Donc, on est sélectionné après, parce que c'est sacrilège de parler de sélection à l'entrée dans l'université. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais au bout d'un an, là, tout à coup, on peut. En tout cas, c'est vrai que... c'est... Alors, il y a là, vous voyez, des fractures dans la société qui existent et qui perdurent, qu'on n'a pas encore résolu. Par contre, une donnée sur laquelle tout le monde s'accorde, la première année de médecine au médecin. Pas en fac des sciences. Alors ça, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, puisque les facs des sciences avaient récupéré la première année de médecine, le PCB. Voilà. Et là, il n'en est plus question. Et là, c'est un sujet qui encore a réapparu et qui a là entraîne des boutons. Quoi. Ça fait partie comme ça des sujets. Alors, il y a un autre élément très intéressant, c'est que, alors là, tout le monde est d'accord, c'est on veut un enseignement professionnalisé. C'est-à-dire que vraiment, l'hôpital est très important. Et on sent que si un certain nombre d'étudiants en médecine, chez nous peu, un peu seulement, mais beaucoup à Paris, en voulaient au mandarin, c'est parce que ces mandarins n'accordaient pas assez d'importance à l'hôpital. Ils allaient dans leur cabinet, ils allaient dans leur clinique, pas assez à l'hôpital. Ce qui était... Et les étudiants savent que c'est là qu'ils apprennent leur métier. Ils veulent un enseignement qu'ils appellent intégré. Et ce mot a fait florès et est encore aujourd'hui une grande constante dans la formation médicale. Et ils disent même on veut 100% de temps hôpital à partir de la cinquième année. On ne s'imagine pas l'attachement des étudiants à l'hôpital. C'est ce qu'on explique toujours au directeur en disant il faut traiter les étudiants comme ils sont peut-être un peu frondeurs et tout, mais c'est vrai qu'ils aiment l'hôpital et que ça a été chez eux une constante. Ils savent que c'est là qu'on apprend le métier. Et donc le professeur qui n'est pas là, ce n'est pas un professeur. Il faut que le professeur soit là pour les apprendre. Alors la médecine générale. Alors, Monsieur Gérard, c'est très curieux parce que une ou deux facs disent qu'il faudrait un stage chez le généraliste. Mais il y a toujours une médecine à deux vitesses. Il y a une médecine générale d'abord et après des spécialités. Et vous savez que cette notion d'une médecine générale et après d'une médecine de spécialiste conçue comme supérieure, elle a disparu qu'en 2000, avec la réforme des études médicales de 2000. À l'époque, ce n'est pas conscientisé. Et toutes les demandes, c'est on fait 5 ans. Un an et demi pour la médecine générale, 4 ans pour être interne ou résident. Et alors là, un débat extrêmement important, c'est est-ce qu'il faut garder l'internat ? L'internat, vous savez, on présentait l'internat si on le voulait, pour être spécialiste, effectivement, sinon on était généraliste. Et puis on pouvait présenter tel CHU, tel autre CHU, après c'était par région, bon. Et... un certain nombre de... Alors, ce sont peut-être les vrais 68ards, je ne sais pas, disent qu'il faut abolir l'internat. C'est l'internat pour tous. Nous y sommes arrivés, hein, depuis 3 ans. Et un autre courant dit il faut préserver l'internat, c'est une école d'excellence, etc. Donc, toujours cette tension très franco-française entre une culture de masse et un élitisme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait sortir les écoles, l'université, les grandes écoles, c'est le seul pays au monde, on a mis Polytechnique, Centrale, les mines, comme ça, on est tranquille, vous comprenez, c'est ça. On fait l'élitisme ailleurs. Bon. Mais il y a une certaine constance qui se retrouve, et là, eh bien, une absence de motion commune tenait en particulier, parce qu'on ne pouvait pas avoir de position générale sur l'internat. Certains étaient contre, et d'autres étaient pour. Il y a deux courants. Et puis, ce qu'il y a de très étrange aussi, c'est que j'ai parlé du caractère composite des revendications, c'est que certaines sont atrocement tactiques, quoi, je veux dire. Elles sont extrêmement pauvres. Alors, je ne vais pas vous les citer parce qu'on s'ennuierait, mais il y en a toute une kyrielle. Mais alors, le style, c'est que la moyenne au TP soit maintenue en septembre. Bon, voilà. On sent, enfin, vraiment, pour un mouvement. Bon, mais alors, ces petits mouvements, que l'enseignement de la pharmacopée soit fait en troisième année, que la moyenne de ceci compense cela, que... voilà. Et alors, on voit comment tout ceci se mêle et qu'au fond, on ne peut pas le nier, disait Peggy, on a de la terre sous les souliers, quoi. Hein. Bon, c'est la tête dans les nuages, les pieds sur le sol, même dans la gadoue, alors... On essaie comme ça à la fois de rêver et de se tirer d'un quotidien, mais que tout ça, finalement, se met ensemble. Et puis alors, et je terminerai par ces deux points, on rêve d'une nouvelle organisation hospitalo-universitaire. On, les étudiants, les internes aussi. Alors, effectivement... il y a autant de plans que de facs et que de CHU, mais c'est assez extraordinaire. Mais en gros, on aboutit à un directeur général de l'hôpital élu par un comité et un doyen élu par un comité. Et les deux qui essaient de s'entendre à côté. Mais un directeur nommé, ça paraissait impossible à poursuivre. Alors là, on voit que là, ils n'ont pas été prophètes, hein, parce que c'est bon. Et d'autre part... effectivement, un directeur doté des pouvoirs d'ordonnateur principal, etc. Une seule tête, comme a dit notre président récemment. C'est vrai qu'à l'époque, c'était absolument pas ce qui était envisagé. Et alors, bon, côté fac, on voulait le doyen élu, il était élu, mais on le voulait élu directement pour être tranquille. Et bon, alors, bon, peu importe, mais on rêve, on, hein, je dis on parce que c'est informe. Hein. Alors, avec des plans qui sont tous, il faut dire, assez irréalistes, hein, mais qui se multiplient. Et je terminerai par un dernier point, c'est que quand nous regardons pour notre ville, quel a été l'effet bénéfique de mai 1968 ? Il y en a eu un, et c'est pour nous d'ailleurs une raison d'avoir été satisfait de l'existence de mai 68 à Poitiers. C'est que la pharmacie a été sauvée. En effet, Poitiers était école de médecine et venait d'obtenir sa transformation en faculté. Mais il avait fallu que le directeur de l'école abandonne la pharmacie. Et il en avait été de même pour Limoges. Et Poitiers a demandé avec vigueur de conserver sa pharmacie. Et par un de ces miracles, après les événements de 1968 d'ailleurs, un décret a annoncé que notre faculté était transformée en faculté mixte de médecine et de pharmacie. Je crois que ça a été le plus beau fruit de ces événements, car la pharmacie était chez nous condamné. Il faut dire qu'à l'époque, et on peut remercier tous les jeunes d'avoir pris conscience de cet élément-là, parce qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte encore du poids économique du CHU. On ne se rendait pas compte aussi que sans fac de médecine, il n'y avait pas de CHU. Et on ne se rendait pas compte que au sein de l'université, la présence d'une fac de médecine avait une fonction de levier considérable. Et que, bien sûr, tout risque qui pèse sur une fac de médecine pèse très lourdement sur l'économie. On peut dire qu'aujourd'hui, Poitiers ne serait plus capitale régionale sans fac de médecine, parce qu'il n'y a pas de capitale régionale sans une université dotée d'une fac de médecine. Il n'y a pas de région sans une fac de médecine. Les régions de France en ont une ou deux. Et c'est une prise de conscience qui était encore confuse à l'époque. Mais cet acharnement à défendre la présence d'une double faculté à Poitiers de médecine et de pharmacie a été incontestablement, semble-t-il, en tout cas sur le plan technique, un des aspects les plus prophétiques et les plus porteurs. Voilà.
Merci. Au fond, comme et Damien sont les bienvenus à Poitiers.
Ah, j'espère.
Sinon, il y aurait eu que comme.
Il y aurait eu que comme, oui.
Voilà, donc la parole est à la salle. Si vous souhaitez poser des questions complémentaires au professeur Roger Gilles à la suite de ses mémoires, si j'ose dire, ses mémoires d'un interne de 68 qui n'a pas encore écrit, mais qui ferait bien écrire de ces jours, au moins dans un bel article. Alors, il y a monsieur Chavlin. Plus fort, plus fort.
Quels ont été les comportements des autres professeurs ? Vous n'en avez pas trop parlé, à part le directeur et son assesseur, mais les autres professeurs, est-ce qu'ils s'étaient mis un petit peu en avant ? Vous avez suivi le directeur ? Vous avez été un petit peu en fil bas ? Je dirais, on attend que tout ça se passe et puis après, on verra bien.
Non, je crois que les autres professeurs ont suivi, puisque Monsieur Lefebvre avait indiqué le chemin. Il avait dit on ne critique pas le directeur de l'école et le directeur est d'accord pour la cohésion paritaire. Alors ils ont fait partie des commissions. Mais les professeurs avaient un souci aussi, c'est pour pour les hôpitaux universitaires que les services hospitaliers fonctionnent. Et comme les services hospitaliers n'ont pas été paralysés sur le plan médical, il est évident qu'on avait toute la recette pour que l'ambiance soit bonne.
On voit actuellement, quand il y a des grèves qui impliquent le personnel médical, il y a une tension, puisque les uns ne travaillent pas, c'est les seniors qui travaillent, etc. Là, ce n'était pas conçu comme ça. D'abord, le mot « travail » n'existait pas en médecine. Ce n'est pas un mot qui avait un sens. C'est un mot qui n'a pas de sens, quoi. Donc, la grève ne pouvait pas... C'était le malade. Et il fallait que le malade soit soigné. Voilà. Et l'idée, par exemple, qu'on dit « on assure les urgences », n'était même pas une idée qui effleurait. On assure tout, parce que l'urgence, ce n'est pas l'urgence qui arrive à l'hôpital ou qui crie. C'est la personne qui est dans le lit, qui dit rien. Si vous ne passez pas la voir, si vous ne soulevez pas ses draps pour voir ses mollets, vous ne voyez pas une phlébite et vous laissez échapper une embolie pulmonaire. Et donc, il y avait une conscience très vive. Et comme ça, ça avait fonctionné. Donc, l'ambiance était finalement bonne. Et il y a des profs assez anciens qu'on aurait pu prendre pour des mandarins qui avaient même manifesté bruyamment leur soutien, dont un descendant du premier directeur de l'école de médecine en 1820 qui, de manière extrêmement moderne, disait vraiment... il faut ne pas lâcher. Voilà. Donc, il y avait une bonne ambiance.
Est-ce qu'on peut avoir un petit point d'histoire? Parce que moi, je me souviens, en 1959-60, nous avions le PCB qui se traitait en faculté des sciences.
Tout à fait.
Et le PCB est devenu première année à partir de quelle année en faculté de médecine?
Alors, en octobre 1961, le PCB a été supprimé. Et il y a eu un système qui s'est appelé examen A et B de première année de médecine. Autrement dit, on l'a vu. Et après est arrivé le CPEM.
Parce que les étudiants...
Et c'est parti en médecine.
Les étudiants qui passaient en PCB, ensuite, la plupart d'entre eux à Poitiers, partaient sur Limoges ou sur Tours. Il n'y avait pas...
Un petit nombre restait à Poitiers aussi.
Il y avait des études complètes à Poitiers.
Ah oui, à 4 ans, comme à Limoges et comme à Tours.
PCB, c'est physique, chimie, biologie pour...
Oui,
PCB, mais... physique, chimie, biologie.
Voilà, qui était un diplôme.
C'était préparé. Alors, on pouvait faire médecine avec PCB ou SPCN. Oui, SPCN voilà, était considéré comme mieux. Science, physique. Naturelle, physique, chimie. Oui, on pensait qu'il fallait 2 ans pour faire SPCN.
Oui,
mais depuis... Alors, les étudiants faisaient PCB à Poitiers et ça a créé beaucoup de problèmes car Tours avait son PCB en médecine et quand on faisait les comptes à l'époque où on faisait traîner des menaces sur... quelle école survivra entre Poitiers, Limoges et Tours?
Voilà.
Car les trois étaient suffragants de l'Académie de Poitiers.
Oui.
La grande Académie de Poitiers. Et quand Poitiers amenait ses chiffres, il n'amenait pas les PCB qui étaient comptabilisés en sciences. On disait, vous voyez, Poitiers le plus petit. Or, Tours et Limoges comptabilisaient leurs PCB. Parce qu'ils avaient chez eux une fac des sciences pas forte. Tandis que nous, à Poitiers, nous avions une fac des sciences forte. Ce qui fait effectivement que ces étudiants n'étaient pas décomptés.
Daniel,
et je voulais savoir, là, vous présentez un peu la situation comme une animation un peu corporatiste ou sur les questions de santé. Mais est-ce que
c'est ce qu'on m'a demandé, oui.
Alors je retire ma question.
Parce que je fais partie de ceux qui l'ont demandé.
Donc, je voulais savoir dans les débats, les échanges, est-ce que s'insinuait des connotations plus, enfin quel type de conscience, est-ce qu'il y avait une conscience sociale, une conscience, la sociologie, là j'ai entendu effectivement des gens dire, on a pris conscience un petit peu d'une autre dimension de la santé, on a fait sortir la santé un peu de sa tour d'ivoire, est-ce que vous pouvez témoigner de ça sur Poitiers, où on avait l'impression que c'était plutôt un débat entre... sanitaire, médicalo.
Oui, mais il y avait des questions sociologiques très fortes. L'absence ou la présence d'une sélection était quand même une donnée qui rejoignait d'autres données générales, la sélection. Ce n'est pas anodin. Le concept de temps plein est fondamental, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas du corporatisme. C'est dire, est-ce que quand des jeunes disent « nous voulons que les professeurs nous enseignent soient des médecins hospitaliers publics », c'est terriblement important. Vous voyez ce que je veux dire?
Je ne pense pas que c'est ça qui...
Je
pense qu'il insistait sur la relation entre la santé, la médecine, la fac de médecine et la société.
Moi, c'est plus les idées stratégiques.
Effectivement, une réflexion au-delà.
Il faut que je réfléchisse, mais vu comme ça, le nez dans le guidon, on sentait plus de grands monomes.
Je pensais, par exemple, tout ce qui est venu après sur l'avortement, sur la contraception, le mouvement des
blagues
et tout.
Est-ce que
c'est plus tard? Il n'y avait pas de lien, les choses
n'étaient pas posées. Non, ça concernait plus la société civile, ça, que les médecins.
Donc, quelle a été, quelle a été la, l'évolution sociologique après des étudiants en médecine, notamment la féminisation, l'accès aux études pour les étudiants plus pauvres, on va dire, donc avec le concours qui a été mis en place, alors qu'il n'y avait pas de concours en 68, il me semble. Et aussi le, la banalisation, enfin pas la banalisation, mais l'accès à tous de l'internat. Une dernière chose, sur le PSEM1, beaucoup, beaucoup d'étudiants trouvent que la première année commune à tout le monde est vraiment le meilleur moyen pour, de sélectionner de manière égalitaire. S'il n'y avait pas d'année commune, ce serait juste les bacheliers scientifiques, bon j'en suis un, mais ce serait juste les bacheliers scientifiques qui pourraient accéder à médecine, et ce avec les meilleures notes uniquement, alors que le concours permet d'avoir la même formation pour tout le monde et d'égaliser les chances.
Oui, je ne vais pas dans ce sujet faire un débat à ce sujet, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que mai 68 ait amené plus de démocratie dans le recrutement. Les bourses existaient bien avant mai 68. Ça, absolument.
Combien de femmes y avait-il
dans... Ah non, c'est autre chose. La venue des femmes est un phénomène général qui ne tient pas du tout à mai 68. C'est une évolution générale de la société. Et en Russie, ça fait très longtemps que ce sont des femmes en majorité. Ailleurs, elles sont arrivées chez nous. La mai 68 n'y est pour rien. L'accès aux bourses. Alors, la première année de médecine. Effectivement, c'est un concours anonyme qui broie les jeunes. C'est un concours qui est une archéologie française. Et je peux vous dire que je trouve dommage qu'on sacrifie, bon, c'est à titre personnel maintenant, hein, des jeunes à l'autel d'une espèce de justice. Moi, j'ai vu beaucoup plus de malheur que de bonheur par ce concours. Et que quand même, qu'on soit le seul pays du monde à être vertueux, ça m'étonnerait quelque part. Vous savez, la France qui est le pays qui sait, etc. Bon, alors on est un pays effectivement un peu étrange. Je vois quand on donne les résultats, c'est très bien pour les 180 premiers, et puis les autres, ils ont leurs larmes pour pleurer. N'empêche qu'ils sont restés un an à être là. Et on essaie après de trouver des solutions pour eux. La plupart partent, on ne sait pas où. Vous savez, je crois que là, bon, mais aujourd'hui, les consensus ne sont pas prêtes, donc il ne faut pas forcer. Je veux dire que s'il y a une majorité pour soutenir qu'il faut garder ce concours-là, on va le réformer là en 2009, il y aura encore une année. Alors cette fois-ci, la réorientation précoce sera au bout de 6 mois. Vous allez voir l'usine à gaz. Quant à l'année commune, Dieu sait si nous l'avons joué à Poitiers complètement. Mais au moment où on la sécurise, on vide les kinés, on vide les kinésithérapeutes. Bon, très bien, tout ça parce qu'il y a 2/3 d'écoles privées de kinésithérapeutes. Et qu'effectivement, c'est bien d'organiser un concours parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et que, par contre, le 1/3 d'écoles qui passaient par deux CHU, qui passaient par les universités. Donc vous voyez que c'est pas facile, hein, c'est un peu cadré des lanciers, c'était très contrasté. Il faut voir les problèmes les uns avec les autres. Bon, certains ont dénoncé le gâchis humain du PCEM1. Puisse-t-il être amélioré par la réforme qui va se mettre en place? Je n'en sais rien. Je le souhaite de tout cœur, vous savez. Mais bon.
Sur quels critères sélectionnerait-on les étudiants à l'entrée en PCEM, enfin en première année, sans concours?
Oui, alors vous parlez des bacs scientifiques, mais aujourd'hui, 99% sont des bacs scientifiques. Mais aujourd'hui, il a été proposé un court-circuit pour les littéraires. Il a été refusé, pas par le gouvernement, par certaines associations étudiantes. C'est dramatique. Et vous voyez qu'au moment où on dit on veut pas favoriser les littéraires, on dit « Ah ben non, il faut que ce soit juste ». Donc si vous êtes mention très bien en philo, c'est très bien, mais il faut le même concours que les autres parce que, bon, donc ça veut dire que vous êtes sélectionné sur des matières scientifiques. Et puis on se mord la queue. Voilà. Et aujourd'hui, on va jeter les littéraires, ce qui est toujours un peu dramatique, en 2008. Voilà, enfin les dernières nouvelles qu'on a et qui m'inquiètent.
Au niveau national, est-ce que ce qui s'est passé en mai 68, cette réflexion que vous avez évoquée, a amené des changements dans l'organisation des études de médecine?
Ah oui, je pense que tout ce ferment a quand même généré des choses. Hein. J'ai quelques mots clés. Le mot enseignement intégré, ça c'est un mot très très très, très fort. L'hôpital, l'enseignement professionnalisant, ah oui, Ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et que mai 68 a permis de canaliser. Parce que c'était pas rien que d'imaginer un enseignement dont certains maîtres s'étaient déjà aperçus, puisque 58 avait remédié à ça, mais c'était trop précoce. C'est-à-dire que vous aviez des profs à la fac qui n'étaient pas médecins hospitaliers. Donc il y avait un divorce absolu entre l'hôpital et l'université, ce qui était effectivement pas bon. Et là, je crois que mai 68 a assis les choses. Et on peut dire que ça a plutôt fortifié, puisque les jeunes étaient du côté des temps pleins. Et donc, du coup, il n'y a pas eu d'hésitation sur le fait que c'était le modèle à déployer pour mettre en œuvre une formation médicale de qualité. Voilà. Puisse-t-on ne pas y revenir ?
Oui, c'est très intéressant la manière dont vous avez raconté les choses, parce qu'on sent bien cette lame de fond qui a fini par transformer, mais évidemment pas juste après mai 68, mais jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis psychologue et on se réunissait il n'y a pas très 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 longtemps entre universitaires et maîtres de stage à la fac de psycho, à Poitiers, en faisant le constat du divorce. C'est même pas un divorce, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un divorce, il faut qu'il y ait d'abord un mariage. C'est-à-dire que ce que vous décriviez du mandarinat tout à l'heure, c'est quelque chose qui est encore institué, par exemple, dans les facs de psycho. C'est-à-dire qu'en psychologie clinique, effectivement, la plupart des universitaires titulaires, les maîtres de conf et les profs, ont une activité qui est d'abord une activité libérale par ailleurs, ou pas d'activité clinique. Et donc, l'enseignement intégré n'est pas arrivé en psycho clinique. C'est très intéressant parce que vous avez commencé tout à l'heure votre conférence en nous disant... Nous, étudiants en médecine, nous, internes, on a emboîté le pas. Mais alors, c'est très paradoxal, parce que finalement, si vous avez emboîté le pas, évidemment, par rapport aux étudiants en lettres et sciences humaines, quand même, au départ, sur le plan de la révolte politique, on va dire, ou de la prise de parole, pour reprendre les termes de Michel de Certeau, vous avez emboîté le pas, et vous êtes sauté par-dessus les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez réussi, finalement, à créer une transformation... profonde des études quand même, alors qu'en sciences humaines et en particulier dans les disciplines des sciences humaines qui ont une pratique, et en particulier la pratique clinique pour les psychologues, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Et ce qui est aussi une particularité française quand même, parce qu'il suffit d'aller aux États-Unis ou il suffit d'aller au Canada, il suffit d'aller maintenant en Allemagne, etc., etc., pour s'apercevoir que ça ne se passe pas tout à fait comme ici. Et je trouve ça, ce paradoxe, sur un plan historique probablement intéressant, un peu tragique à mon sens, moi, pour les psychologues, avec toujours ce retard aussi quant à la question de ce clivage entre, vous disiez, il y avait les généralistes, et puis au-dessus, il y avait les spécialistes. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on garde, effectivement, en psycho, c'est-à-dire il y a ceux qui ont le Master 2, et puis il y a ceux qui ont le doctorat.
Oui, c'est vrai.
Hein, alors, c'est intéressant, ce phénomène-là, paradoxal, je trouve.
Y a-t-il d'autres prises de parole, M. Tronche ? Oui, de toute façon, bon. Encore une ou deux questions, et puis on va écouter Pascal Boissel. C'est Tourangeau.
André Tourangeau. J'ai participé à 68 en ma qualité de responsable syndical. J'étais donc responsable ce jour-là, le jour de la grande grève. Grand défilé, avec quelques-uns. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais. Et depuis tout ce qui s'est passé, je peux dire aujourd'hui que nous sommes entrés, comme vous disiez tout à l'heure, dans le mouvement sans nous en rendre compte, par obligation morale. Par obligation civique, parce que nous étions des salariés, des adultes, des papas, et nous ne voulions pas laisser tout à fait la rue aux étudiants. Et nous avons mis au moins une douzaine de jours à récupérer le temps perdu sur le mouvement pour nous mettre... nous faire accepter par le mouvement étudiant, et qui avait à parler, il avait envie de parler. Nous avons essayé de lui répondre, de lui expliquer que, dans le fond, il n'était pas le plus mal placé dans cette société, parce qu'ils étaient les futurs cadres de cette nation. Et ça n'y fait rien. C'était une fièvre, une poussée, et on était dans une espèce de cocotte minute qui allait exploser, on ne savait pas comment. Peut-être que c'est la grève qui a fini par servir comment on appelle ça, de soupape de sécurité, parce qu'on a tout dit là. On a tout dit. Il y avait des choses sérieuses. Il y avait aussi. On a rigolé un peu, quoi. Hein. Tout le monde chantait son slogan. Simplement pour faire diversion, il y avait une banderole, il y avait Versailles au Formol. Il m'a dit, vous portiez cette banderole. Ah, plus tard, il m'a dit ça. Il dit, c'est parce qu'on voulait vous conserver, monsieur le président, le plus longtemps possible. Non, mais vous voyez, ça n'avait pas. Il y avait un côté quand même sympathique, quoi, derrière
tout
ça.
Tout à fait. Ça, c'est vrai.
Alors aujourd'hui, dire. Est-ce que 68 a apporté quelque chose à l'Algérie? Là maintenant, monsieur le professeur, vous le voyez. Est-ce que si 68 n'existe pas, les évolutions que vous avez constatées sur le plan de votre profession auraient-elles eu lieu quand même? Voilà la question. Parce que je ne suis pas certain. Il y a eu un mouvement, évidemment, qui était une espèce de une grande fête d'un seul coup, quoi. Puis on avait tous quelque chose à dire. Parce que ce qui s'est passé, il y a eu la grande grève, il y a eu le grand défilé, et puis il y a eu les banderoles. Mais pendant 3 semaines par la suite, chaque corporation, un coup les hôpitaux, un coup les communaux, un coup le clan, chacun voulait venir faire sa manifestation pour expliquer ce qu'il n'avait pas pu dire ce jour-là. Et on en a eu pour 3 semaines à accompagner les mouvements, le soir, la veillée, quoi. On ne s'est pas couché de bonne heure. Je voulais vous dire ça, c'est des souvenirs d'anciens. Mais c'était quand même un bon moment. Un bon moment, 68.
Merci. Merci de ce souvenir et de cet optimisme. Nous allons écouter maintenant le docteur Pascal Boissel, docteur psychiatre.
Alors, je ne suis pas 68 ans parce que j'étais au collège. Je ne suis pas 68 ans parce que j'étais au collège, mais j'ai eu des engagements politiques à l'extrême gauche par la suite, dont j'ai un excellent souvenir. Et j'ai gardé des fidélités à l'extrême gauche, ce qui m'a valu d'être contacté pour la rédaction de l'article psychiatrie de celui que je vous conseille aux éditions Syllabs, qui sont des éditions assez à gauche, parce qu'il y avait quelqu'un de plus connu que moi qui avait été contacté et qui s'y désistait. Ce qui m'a amené à me retrouver avec des tests que je ne me rappelais pas avoir lu, que certains je les avais lus, mais je ne me rappelais de rien. Et donc, voilà, c'est quelque chose un peu. Donc, là, c'est sur les années 68. L'idée, c'était sur les années 68. Alors, quand même, pour resituer un peu sur l'époque, parce que le problème, c'est que c'est. Avant que M. Sarkozy dise qu'il fallait en finir avec l'esprit 68, je crois pas, il n'aurait pas dit ça, je ne crois pas qu'il y aurait eu autant de choses que cette année, 7 tonnes de livres qui sortent sur les hippies, sur Underground, sur absolument tout, 40 ans après. 40 ans après, ou alors ça montre quand même un progrès de l'espérance de vie quand même particulièrement important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en excellente forme, comme Bénit est en magnifique forme et le montre tous les jours, pour expliquer que tout ça, 68, il ne faut plus en parler. Il met tous les jours à la télé pour en parler. Alors, je voudrais dire deux, trois repères historiques de ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc, oui, donc dans ce qui sort en ce moment dans les livres, la nouveauté dans la production éditoriale, c'est d'insister sur la grève ouvrière, les grèves ouvrières, et avec des analyses, des témoignages de gens qui n'avaient pas parlé jusque-là. Donc, un recueil de témoignages qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, c'est une nouvelle manière d'en parler. Sur ce qui s'est passé dans ces années-là, donc, c'est vrai qu'il y a un aspect folklorique, mais c'était quand même peu de temps après la fin de la guerre d'Algérie, qui fut une guerre civile, tout de même, puisque du côté des partisans de l'Algérie française, c'était une guerre civile. Du côté de ceux qui s'opposaient aux partisans de l'Algérie française, ce fut de fait une guerre civile. Donc c'était quand même peu de temps après. On sait maintenant qu'il y a eu une manifestation d'Algériens à Paris en 62, où il y a eu 160 morts et le préfet était Maurice Papon. Donc par rapport à l'aspect amusant, quasi comique, je crois qu'il y avait quand même un certain nombre de gens la violence dans la rue est extrêmement importante. Elle est difficile à comprendre maintenant, mais la haine de la police, pour certains, avait s'expliquait comme ça. En 1900, donc à cette époque-là, en 1972, il y a eu la signature du programme commun, qui, par rapport à une bonne partie de ce qui était issu du mouvement de mai, était considéré comme une tentative de récupération institutionnelle réussie. Et en 73, donc, il y a eu des grèves importantes comme l'IP, il y a eu le mouvement lycéen contre la réforme de Bray, il y a eu les paysans du Larzac, dont on entend toujours parler. Et il y a eu un coup d'État militaire au Chili qui a beaucoup marqué la gauche française, puisque le Chili avait était le seul pays d'Amérique latine avec une tradition parlementaire importante, et que le président Allende avait dit qu'il fallait prendre des militaires dans son gouvernement parce que l'armée chilienne était intrinsèquement démocrate. Il a pris donc dans son gouvernement le général Pinochet. Donc c'était quand même par rapport à cette ambiance, il y a eu comme une ambiance un petit peu difficile. Et la droite, à cette époque-là, une bonne partie de la droite a considéré que c'était un coup d'État pour éviter un coup d'État communiste qui avait eu lieu en Raymond Aron, dont on dit que c'est un doux idéaliste, en opposition à Jean-Paul Sartre, qui serait un excité assoiffé de sang, a soutenu le coup d'État. Alors, après, donc c'était dans cette époque-là, il y avait une dictature en Espagne, avec Franco qui est mort en 75, qui a continué à faire des exécutions jusqu'à la fin. Il y avait le régime de Salazar au Portugal, et il y avait la dictature des colonels en Grèce. Tout ça s'est arrêté en 74 et 75. Donc par rapport à un climat, par rapport à ce qu'était la gauche et la droite, avec une union soviétique évidemment extrêmement forte, un parti communiste qui était hégémonique à gauche, qui était hégémonique à l'intérieur de la CGT, et avec on disait qu'il était possible que l'Union soviétique envahisse l'Europe. Donc, il existait quand même des tensions assez fortes à l'intérieur des opinions publiques. Et le clivage droite-gauche était d'une autre manière que maintenant. Donc voilà. Alors par rapport à ce qui s'est passé dans le champ de la psychiatrie, bon, je veux juste dire par rapport à des choses de... Donc, à cette époque-là, il y avait des courants de contestation assez importants, mais il existait un courant de réforme au long cours qui avait pris le nom de psychothérapie institutionnelle, qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par des psychiatres hospitaliers, mais ils étaient tous hospitaliers à l'époque, et donc qui ont élaboré un certain nombre de choses. Donc, il disait qu'il fallait articuler une thérapie s'inspirant de la psychanalyse avec avec une analyse des rapports sociaux inspirée du marxisme. Oui, non, c'est parce que j'ai toujours eu du mal à savoir en quoi il y avait une analyse des rapports sociaux. Et donc, en tout cas, il y a eu tout un tas de il y avait tout un tas de courants avec le centre, le CMEA, le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et la revue Vie sociale et traitement. Il y avait les syndicats, avec les syndicats, avec à Poitiers, quelqu'un comme Tony Lenné, au niveau national, avec un certain nombre de personnes du syndicat du psychiatre des hôpitaux qui étaient majoritairement sur ce courant-là. Donc, voilà. Il y avait un certain. Dans les années 50, il y avait des gardiens dans les hôpitaux psychiatriques. À la fin des années 50, c'était des infirmiers psychiatriques. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont changé, mais ce qui n'avait pas changé, c'était que la majorité des gens qui étaient hospitalisés restaient hospitalisés en hospitalisation sous contrainte. Donc quand 68 est arrivé, ce qui a été dénoncé, c'était l'enfermement psychiatrique. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu ce qui a été tenté, c'était de dire. Donc il y a eu des débats dans cette grande floraison de débats où certains disaient que ceux qui étaient fous portaient une parole qui était nécessairement subversive, ce qui s'est avéré un peu sans lendemain, mais aussi que c'était l'époque où il y a eu où Lacan exposait dans des séminaires ouverts à tout public et qui ont été qui influençaient de diverses manières ces courants-là. Et la chose qui paraît la plus. Celui qui était tout le temps cité, c'était Michel Foucault, avec l'histoire de la folie à l'âge classique. Et, seulement qu'en cherchant bien, Michel Foucault a pris bien garde de ne pas intervenir dans le champ de la psychiatrie. Dans les années 70, il est intervenu par rapport au comité d'action des prisonniers, par rapport à des situations concrètes concernant les prisonniers, par rapport à la psychiatrie. Il y a très très peu de déclarations. Beaucoup de gens se référaient à lui, mais lui était assez en marge par rapport à ça. Certains disent qu'il considérait qu'en tant qu'intellectuel spécifique, il ne savait pas comment intervenir par rapport à ça. Toujours est-il que son livre visait à dire qu'il y avait un pouvoir médical, d'où était issu un pouvoir psychiatrique, qui était une aliénation imposée aux personnes hospitalisées, et que par rapport à la manière dont les choses ont évolué, on peut quand même penser que dans les hôpitaux, ce pouvoir médical a été plutôt. A perdu beaucoup par rapport à ce qui était décrit par Michel Vallière, et qu'il y a eu un pouvoir administratif qui s'est beaucoup développé, et qu'à l'intérieur. Je crois que la critique de Michel Foucault par rapport à la conception du pouvoir médical. Demanderait être beaucoup travaillé pour la remettre en perspective par rapport à ce qui se passe maintenant, tellement le monde a changé. Quoi. Bon, alors, sur les livres qui sont sortis à l'époque, il y avait, Roger Gentis, Les murs de l'asile, il y avait une revue qui s'appelait Garde-fou. Donc, Garde-fou, c'était garde avec un S, et c'était les gardes qui étaient devenus fous. Et il y a eu un livre de Guattari et Deleuze qui s'appelait L'Anti-Oedipe, donc qui se voulait une critique de la psychanalyse lacanienne, disant que la psychanalyse lacanienne ne servait qu'à récupérer toute l'énergie contestataire. Et Guattari a été attaqué en disant que lui-même n'était qu'un des éléments du système, puisqu'il travaillait à la clinique de la Borde, et que la clinique de la Borde était à la fois un haut lieu de la contestation et à la fois extrêmement. C'est une espèce d'icône, quoi. Donc, qui était au-delà de toute analyse. Donc, voilà. Enfin, ce qui était intéressant, quand même, c'est qu'il y avait beaucoup de choses un peu bêtes qui pouvaient être dites parfois, mais il y avait des contradictions à l'intérieur de ceux qui contredisaient l'ordre dominant, disons. Et que c'est. Par rapport à la manière dont les choses étaient posées, ça paraît intéressant. Il y avait un sociologue, Robert Castel, qui a écrit notamment L'ordre psychiatrique. Donc, il décrivait l'institution psychiatrique comme une institution qui totalitaire, au sens qu'on pouvait y vivre entièrement, comme dans une communauté monastique, et que elle est à critiquer en tant que telle. Robert Castel est toujours en exercice, mais il n'est plus dans le champ de la critique psychiatrique. À l'étranger, alors il y avait tout ça se passait avec des références internationales assez importantes. Il y a eu des rassemblements de contestataires internationaux dans plusieurs pays qui venaient aussi des États-Unis. Il y a un livre que je psychiatrie antipsychiatrie de David Cooper qui est censé avoir inspiré le film Family Life. Donc qui est un livre sur où il y a une véritable poésie pour parler de la folie, mais qui considère que la schizophrénie aiguë n'était qu'une production familiale, quoi. C'est-à-dire que c'est parce que la famille était oppressive que le môme allait devenir schizophrène. Ce qui était, si c'était que ça, ça serait, le monde serait plus assez joli. Ça a été repris en France par une psychanalyste, Maud Manoni, qui avait écrit un livre qui, à l'époque, avait pas mal d'écho, Le psychiatre, son fou et la psychanalyse, 1970. Et puis, il y avait en Italie un courant qui s'appelait Psychiatria Democratica, avec comme chef de file Basaglia, un autre chef de file moins connu, Giovanni Gervis, donc, qui disait que... alors, ce qui était reconnu, c'est que l'état des hôpitaux psychiatriques en Italie était extrêmement délabré. Donc, il disait on ne peut absolument rien faire là-dedans. Donc, le problème est de fermer. Alors, de fermer progressivement, de trouver des solutions, des hébergements, etc. Il disait pour l'instant, on ne peut absolument pas soigner. D'où la prise de... Il disait la liberté thérapeutique, la libération sociale. Enfin, bon, pour dire que la libération sociale est affirmée comme thérapeutique. En même temps, il se rendait compte que il disait pas qu'il va suffire de fermer des hôpitaux et puis après il n'y aura plus de maladie mentale. Et donc, en 1978, il y a une loi qui a été votée, qui était considérée comme provenant de leur courant de pensée, où ils ont dit on va fermer tous les hôpitaux psychiatriques. Alors, il y a eu quelques régions où ça avait été préparé par des gens du type de Basaglia et d'autres où c'était pas préparé du tout. Donc, dans les régions où c'était pas préparé du tout, ce fut une catastrophe. Mais eux avaient dit que, enfin, à l'intérieur de ce courant-là, il y avait des gens qui avaient prévenu qu'il fallait pas que ça se passe comme ça. Enfin, après, ils ont été caricaturés en France, notamment d'une manière qui paraît assez injuste. Mais bon, ce courant-là, c'est aussi... enfin, je crois que... Je ne sais pas à quel point il existe toujours. Mais en tout cas, il y avait une espèce d'idéalisation du peuple autonome qu'on retrouve dans un certain nombre de textes qu'ils écrivaient, où ils disaient que voilà, les gens, on va leur mettre dans... Ils vont être mis dans un collectif de travail, les travailleurs vont être gentils avec eux, et puis ça va s'arranger pour eux. Ça existait dans quelques cas extrêmement exceptionnels. En tout cas, il y avait, enfin, parmi les mots-clés de l'époque, par rapport à ça, il y avait l'antipsychiatrie, mais antipsychiatrie, donc, c'était pas les Italiens, c'était les Anglais. La psychothérapie institutionnelle, qui était une particularité française, qui a continué, qui avait commencé dès les années 45, et qui a continué jusque... qui a peut-être continué jusqu'à maintenant, je ne sais pas exactement. Et puis la psychanalyse, surtout la psychanalyse lacanienne, parce que les psychanalystes non lacaniens, il y avait surtout un texte d'attaque assez forte contre les contestataires de 68. Bon, je vais m'arrêter là.
Merci. Parmi les mots-clés, dont antipsychiatrie anglaise, mais je n'ai pas de mémoire comme ça. L'antipsychiatrie anglaise n'est pas née de mai 68, mais elle est née des soins d'après-guerre. Elle a démarré avec les soins pour recycler, si mes souvenirs sont bons, les pilotes qui avaient bombardé un peu partout et qui avaient perdu plus ou moins de la raison. Et ça a été récupéré comment, ça, par mai 68? Je me trompe, là?
Je crois que c'est Bayonne, ça.
C'est après 45. Hein,
c'était des textes qui ont été élaborés avant et qui ont fait Florès en 68.
Parce
que ça venait
en France.
Ah oui, en France. Et ça a été l'ouverture, parce que là, on pouvait entendre ces choses-là. Et c'était l'intérêt de pouvoir, en effet, lire autre chose que ce qu'on avait chez nous. Hein. Alors, bien sûr, la psychothérapie institutionnelle, c'était quelque chose qui était, qui a fait ses preuves et qui n'était pas forcément, je dirais, jeté, mais c'était une ouverture. Voilà. Alors, finalement, moi, la question que je voulais te poser, c'est que sont devenus tous ces textes ? Que sont devenus tous ces textes, toutes ces idées ? Est-ce que, c'est un petit peu la même question qu'on a posée à M. Gilles, bon, une question, si on veut,
Gérard
immense.
Gérard les a tous.
bon, les uns ou les autres, on a pu les lire quelques temps après. Mais finalement, pour toi, qu'est-ce qui reste un petit peu de tout ça dans notre pratique en dehors, si tu veux, de choses un peu polémiques, hein, mais je veux dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça?
C'est exactement la question à laquelle je ne peux pas répondre, ça, je crois. c'est pas exactement, je crois qu'il y en a beaucoup à laquelle je ne peux pas répondre. Je crois, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'à relire ça, ce que j'ai trouvé, c'était que il y avait des choses qui étaient très intelligentes, qui étaient dites, et en tout cas, c'était un débat public. Moi, je me rappelle, dans les années 70, il y avait plein de gens qui intervenaient. Bon, c'était assez con, mais bon, la question homosexuel refoulé, machisme, tout. Mais bon, il y avait une espèce de débat qui a continué, qui s'est réellement éteint avec tout ce qui était, tous ces mouvements-là vers 78 en France, parfois un peu plus tard. Mais presque partout, en 78, c'était vraiment les derniers feux. Et ce que je pense, c'est qu'en ce moment, 40 ans après, le monde a beaucoup changé. Ce que je crains, c'est qu'il y ait un monde qui soit déshumanisé. Voilà. 40 ans après, j'ai l'impression que ce que je pensais juste, ça n'a pas marché. Je suis inquiet pour ma fille. Voilà, très sincèrement. Alors, dans ma pratique, je pense que il y a un mot qui est venu que j'ai beaucoup entendu quand j'étais à l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital, mais c'était l'humanisation des hôpitaux. Mais si on parle d'humanisation des hôpitaux, c'est parce qu'on pense quelque chose d'inhumain. Mais je pense que maintenant, on n'en parle plus parce que on accepte qu'il y ait quelque chose de robotisé. Voilà ce que je pense, moi. Alors, c'est peut-être con, mais il faudrait que ça soit. Je trouve qu'il. Si on pouvait être interpellé par n'importe qui à n'importe quel moment, c'est désagréable, mais ça oblige à répondre et puis parfois à trouver un truc auquel on n'a pas pensé. Je pense que dans la vie politique, c'est horriblement appauvri, enfin, devenu, moi, je trouve stupide, mais pas seulement, quoi. Il y a quelque chose qui, par rapport à parce que au fait que tout soit marchandise, ça a des conséquences sur la manière dont les gens se vivent eux-mêmes. Je pense qu'on est toujours, fou à peu près de la même manière, mais la manière dont on est regardé quand on est fou, et je crois que ça s'arrange pas, quoi. Voilà, c'est autour de ça que je pense qu'il y a quelque chose qui serait à travailler.
Gérald,
oui, je voulais poser une question, mais quasiment deux intervenants. Moi, j'ai, comme tout le monde, et j'ai lu, j'ai vécu. Je crois que les relations entre les médecins et d'un côté la population et de l'autre les autres, j'allais dire, travailleurs de la santé, non médecins, après 68, ont été vécues d'un côté. Comme de l'autre, c'est-à-dire aussi bien en tant que patient qu'en tant que médecin, légèrement différemment. Et il me semblerait qu'il y a eu réellement, à partir de là, un dialogue qui a commencé à se construire. Ce qu'il y a, c'est que, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que vous en pensiez. Si vous pensez réellement que dans, on va dire, par exemple, dans tout le début des années 70, il y avait d'autres relations. Moi, quand j'entendais M. Gilles parler de l'internat où les externes ne pouvaient pas aller. Je veux dire, dans les années 70-75, il y avait du personnel de l'hôpital qui pouvait passer à l'internat. C'était un peu plus convivial et un peu plus ouvert. Ça, je crois qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça. Et aussi la façon dont on parlait aux patients et qu'on essayait d'expliquer. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'on n'en est pas, est-ce qu'après cette progression et cette confrontation, ces échanges, est-ce qu'on n'est pas en train de redescendre, ou est-ce que la coupure n'est pas de nouveau refaite, ou est-ce qu'elle s'est faite différemment et tout. Je crois que ça, c'est une vraie question. Mais je crois que réellement, il y a eu des changements, et je ne sais pas comment vous les avez ressentis en tant que médecin, entre les relations médecins, population générale ou médecins et autres salariés de l'hôpital, par exemple.
Qui veut répondre, professeur, docteur ?
Oui, je suis assez embarrassé pour dire que c'est causal, je ne sais pas. Hein. Qu'il y ait une société qui bouge et qui aboutit à la loi 2002 qui consacre le primat d'autonomie du malade par rapport au primat de la bienfaisance, c'est clair, quoi. Mais je ne saurais pas dire, et là je mets par incompétence, si 68 a joué un rôle ou pas, ou si ça a été qu'une étape d'un processus qui s'enclenche et qui évolue, voilà, ça je ne sais pas, mais il reviendra peut-être à des sociologues de l'analyser, mais ça, voilà, c'est sûr que ça change, ça a changé, le monde change, ça c'est tout à fait clair. Mais ce que dit M. Boissel est tout aussi vrai, on a l'impression que l'humanisation c'est toujours une quête, et qu'il faut ça va pas toujours vers plus d'humanisation. C'est-à-dire qu'on a besoin de se poser la question sans cesse. Quoi. Voilà. L'humanisation, c'est un défi permanent. Et il faut peut-être pas croire qu'on va vers un progrès constant. Sinon, on se remet pas en question. Je crois que c'est ça.
La société change en permanence. Donc, ce ne sont pas les mêmes critères.
Pas les mêmes critères.
Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on se repose sans arrêt la question qu'est-ce qui est bon au fond pour nos patients dans cette société donnée à ce moment donné. Oui.
En mai 68, j'étais un acteur, participant et engagé. Engagé à Poitiers, et je crois qu'on ne peut pas parler de la psychiatrie à Poitiers sans rappeler, comme vous l'avez fait, un personnage qui a marqué, disons, la vie poitevine, qui s'appelle le docteur Tony Lainé. J'étais en 1968 candidat suppléant avec le docteur Tony Lainé, ainsi qu'en 1973, à la deuxième élection législative à Poitiers. Alors, je ne vais pas faire l'analyse complète de la vie du docteur Tony Lainé, mais je voudrais simplement poser une question dans la mesure où, à Poitiers, son action politique, mais également, sa désignation, dans un premier temps, en tant que candidat, aux élections législatives, en mai 68, a provoqué, dans la population poitevine, en tant qu'acteur, c'est comme ça que moi je l'ai reçu, un bouleversement, un changement. Pas parce que, un, parce qu'il était médecin, deux, on le connaissait à l'intérieur de l'hôpital, engagé politique, donc membre du Parti communiste français à l'époque, ce qui veut dire que pour Poitiers, le docteur Tony Lainé, et c'est pas parce qu'il y a deux écoles et qu'il y a, y compris un pavillon à l'intérieur, de Laborie, qui s'appelle le pavillon Tony Lainé. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que les travaux, locaux, nationaux et internationaux, soulevés par le docteur Tony Lainé et son équipe, et l'ensemble des équipes ont apporté à la psychiatrie en France et dans le monde. C'était ma question.
Ah, moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, j'ai vu les émissions. Moi, j'apprenais que Tony Lainé était venu quand il était passé en général. Donc, ce qui m'a frappé dans les années 80, c'est que le réseau passait par l'éducation nationale. Et j'étais pas dedans, en tout cas. Mais j'ai fini par aller l'écouter. Et puis, j'ai vu les émissions, pas mal d'émissions qu'il avait fait avec Carlin. C'est la raison du plus fou, hein, c'est ça ? La série d'émissions, et puis dans plusieurs séries d'émissions. Je crois que, en tout cas, par rapport. Les livres que j'ai lus, j'ai trouvé que c'est la même chose que dans les émissions. Je ne peux pas dire que j'ai été enthousiasmé par ces livres, parce qu'une fois que j'avais vu les émissions. Les émissions, j'ai trouvé que c'était extrêmement. Il avait fait une émission sur. Où il a interrogé un assassin. Et à un moment donné, il fait dire quelque chose à j'ai trouvé que c'était extrêmement. Il lui fait dire. Il avait tué sa compagne et il lui fait dire un truc sur. La manière dont il se parlait de sexualité, et j'ai trouvé ça extrêmement fort. Enfin, c'est pas facile de rendre compte des moments forts qui se passent dans les consultations à la télé. Et là, c'était fait sans voyeurisme et c'était fait parce qu'il avait l'habitude de travailler avec Carlin. Bon. Je trouvais que c'est bon. Je pense que par rapport à ils ont en France, il est un de ceux qui a le plus aider à ce qu'il y ait un autre regard sur la folie, sur l'enfance aussi. Je crois que c'était. Voilà. Sinon, moi, j'ai jamais été amené à le rencontrer, donc c'est comme ça.
Voilà. Et moi, je veux bien apporter un témoignage, au moins là-dessus. Moi, j'ai rencontré un peu le docteur Tony Lainé, puisque j'ai travaillé à l'hôpital juste avant qu'il parte sur Étampes. L'idée, moi, que je me fais de son apport, c'est que lui, personnellement, a contribué à apporter à un moment où, dans l'immédiate après-guerre, il y a eu un réel mouvement des psychiatres communistes en France qui avait déjà une implication dans la Résistance et avec Saint-Alban, qui, après... on travaillait beaucoup sur la psychiatrie institutionnelle. Des psychiatres comme ça, il y en a eu un peu. Enfin, je veux dire, les plus célèbres, Bonafé, Le Guillon, ces gens-là, qui étaient, j'allais dire, politiquement engagés pour ensemble porter des réformes en psychiatrie. Eux se sont beaucoup appuyés sur ce que disait Pascal là, sur la psychiatrie italienne. Ils ont beaucoup travaillé avec les psychiatres italiens parce que c'était des psychiatres communistes. Et c'est effectivement là où il y avait des municipalités en Italie qui se sont engagées sur la fermeture des hôpitaux avec des préparations, avec des services sociaux, qu'il y a eu les moins mauvaises expériences, pour ne pas dire les bonnes. Et puis c'est là où il n'y avait pas de préparation. Donc, Tony Lainé était bien dans ce mouvement-là. Tony Lainé a favorisé l'émergence des CMEA en France et des CMEA à Poitiers, enfin, de la partie des CMEA qui s'occupait de la psychiatrie, parce que les CMEA s'occupent d'éducation active et des colonies de vacances et des formations de... Donc ça, mais la partie psychiatrie des CMEA, je veux dire, tous les psychiatres communistes militants avaient... dans leurs hôpitaux, développer la formation des infirmiers psychiatriques autour des CMEA, autour de méthodes actives et autour de choses. Donc moi, je crois que c'est un des rares exemples aujourd'hui de rentrer politiquement dans un essai de transformation d'une profession ou des méthodes de prise en charge. Et ça, c'est quand même... Allez, je vais m'arrêter là. Il y a eu des rapports, mais après, il y a eu M. Rallit qui a fait le discours de Sotteville-lès-Rouen, qui reste quand même un des points très importants de l'histoire de la psychiatrie et des réformes portées par la psychiatrie. Donc, ils ont été jusqu'à concrétiser par le discours de Sotteville-lès-Rouen et par certaines réformes, la mise en place du secteur, un peu de psychiatrie institutionnelle, ils ont contribué à transformer très certainement la pratique, mais pas d'une façon, même s'ils ont, avec le ministre, pas d'une façon complètement globale, mais dans les endroits où ils étaient, où ils travaillaient, où ils avaient le pouvoir d'organiser, ils ont fait, je crois, vraiment quelque chose. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un parti politique, à un moment donné, par ses professionnels, a essayé de transformer un peu une pratique.
Pierre ?
Non, moi, c'est pour une intervention un peu plus. C'est pas pour une question.
Oui, mais c'est trop chaud.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'exposé de mon collègue. J'ai travaillé une douzaine d'années aux côtés, au quotidien, avec Tony Lenné, dans cette psychiatrie locale, qui s'est transformée. C'était un type exceptionnel, oui. Il ne passait pas inaperçu. Il avait un charme étonnant, une capacité pédagogique exceptionnelle. Il était très, très écouté. Mais je ne suis pas sûr, mon cher, que ce qu'il nous a apporté, c'était parce qu'il était précisément militant communiste. Parce que la méthode qu'il mettait en route pouvait être partagée par des gens qui ne partageaient pas forcément ses dispositions politiques. J'ai partagé à fond ses conceptions de travail, mais je n'ai pas forcément pris une carte au Parti communiste.
Il y a monsieur Patrick.
Oui, enfin, deux petites choses. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, j'ai fait un stage comme externe, justement, dans le service de Tony Lenné, juste avant son départ. Et moi, ce qu'il m'avait beaucoup impressionné par sa faculté d'humanité. Et je me souviens du premier stage que j'ai fait, c'était à Châlons, à l'époque. Et il y avait des enfants. Ici, le premier jour, j'étais épouvanté de voir ces enfants complètement fous. Le deuxième jour, déjà un peu moins, et le troisième jour, j'avais l'impression d'être avec des enfants normaux, ou presque. Voilà. Et ça, c'est exceptionnel. Je veux dire, il m'a apporté, alors pas du tout comme militant communiste, que j'ai jamais été communiste, mais comme homme et comme médecin, et comme médecin psychiatre, il m'a profondément marqué par son action. Voilà. La deuxième chose, la deuxième question que je voudrais poser au psychiatre au pluriel, Pascal te dit à un moment donné, la folie reste la folie. Or, dans le mouvement des psychiatres communistes, il y avait cette tendance à sociopathiser un peu tous les symptômes. C'est-à-dire que c'était la société qui était toujours un petit peu première dans le déclenchement de cette folie. Et ça, c'est quand même une marque de 68, quelque part. Et je voudrais poser cette question aux psychiatres, en savoir qu'ils me répondent. Alors, la folie, c'est toujours la folie, et la part du social, où en est-on par rapport à ça dans la réflexion des psychiatres, de la psychiatrie, de la psychologie? Et qu'est-ce que mai 68 a changé, ou les années 70 ont changé ou pas dans cette conception-là? En est-on revenu ou pas?
Alors, une réponse rapide, parce que nous avons une troisième exposée. Oui. Alors, qui veut répondre?
Je peux répondre à tout. Non, je crois que y a un terme générique que tu viens de citer, puis qui a été cité à plusieurs reprises, le terme de folie, qui recouvre des réalités extrêmement variées. Et que des études épidémiologiques ont montré, par exemple, qu'une des maladies les plus emblématiques de la pathologie mentale, la schizophrénie, avait un taux de répartition à peu près uniforme dans toutes les sociétés mondiales, de l'ordre de 1% de la population concernée. Mais en même temps, quand on pratique la psychiatrie, on sait bien qu'un certain nombre de situations auxquelles on est confronté sont déterminées par le contexte dans le contexte social, culturel, familial, dans lequel elles émergent. Et surtout, peut-être, en pédopsychiatrie. Donc, je crois qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Il y a des maladies mentales qui sont indépendantes du contexte sociétal. Il y a aussi des formes, alors est-ce que c'est des maladies mentales ou des souffrances psychiques qui, elles, sont très liées à l'organisation du moment. Mais, inversement, je crois que l'implication de la société dans la prise en charge de la maladie mentale est un facteur clé de l'humanisation, justement, de cette prise en charge. On a cité la place des hôpitaux dans le dispositif qui était très controversé. C'était un des discours de l'antipsychiatrie, moins de la psychothérapie institutionnelle, puisque la psychothérapie institutionnelle ne remettait pas en cause le principe de l'hôpital, mais voulait modifier le rôle de l'hôpital dans la prise en charge. C'est différent. Mais l'antipsychiatrie, notamment l'antipsychiatrie italienne, sur la base d'expériences effectivement parfaitement épouvantables au demeurant, ont situé l'hôpital comme un élément majeur de la détérioration des malades qui avaient le malheur de s'y trouver. Simplement, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est un débat qui est resté terriblement d'actualité. On n'a toujours pas résolu la question de la place de l'hôpital dans le dispositif de soins, tout simplement parce qu'on a oublié le deuxième versant de ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. Dans certaines régions d'Italie, on a préparé la fin de l'hôpital et donc on a pu construire des alternatives dignes de ce nom. Et quand ça n'a pas été préparé, c'est-à-dire quand le reste de la société ne s'est pas impliqué dans ce qui devait remplacer l'hôpital, eh bien, c'est l'abandon des malades dans la société civile. Et malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on rencontre aujourd'hui.
Professeur Gilles, je crois que vous vouliez...
Non, non, juste un mot. Je voulais simplement dire, en comprenant, Tony Lenné est mon maître en psychiatrie. Voilà. Donc, je ne peux pas dire plus. Quand on est médecin, j'ai eu 3 maîtres et il m'a tout appris en psychiatrie. Je peux dire qu'il y avait... le communiste et le psychiatre, avec 2 vies qu'il tentait de rejoindre, mais que c'était un homme d'une énorme tolérance et que sa connaissance de la clinique était extraordinaire. C'est un des hommes les plus merveilleux que j'ai approché, mais dans l'homme. Et que effectivement, il était capable d'être entouré d'hommes et de femmes de tous horizons. Et la réussite de Tony Lenné, c'est ça. Et sa mémoire, c'est ça. Mais sa connaissance de la psychiatrie était gigantesque. Et ce qu'il a laissé, et ce qui faisait ce courant autour de lui, c'est ça. Nous avons travaillé des heures ensemble, des centaines d'heures. Monsieur Touranchot, nous avons travaillé aussi ensemble. Bon, moi longtemps, mais à l'interne, ça a une vie plus brève. Mais c'est 1 an et demi de travail en commun et d'apprentissage. Donc voilà, on a quand même eu un très grand psychiatre. La psychothérapie institutionnelle à Poitiers, c'est lui. Lacan et le reste, mais il m'a fait connaître le structuralisme. Il avait une culture folle. Il amenait, il discutait, il comprenait. Et ça, c'était lui. Mais il était aussi un fervent de la clinique psychiatrique classique qu'il connaissait parfaitement. Et c'est pas pour rien que mon maître qui venait de la Salpêtrière lui vouer aussi un très grand hommage. Quoi. Voilà. Mais enfin, puisqu'on parle de lui, je ne peux pas ne pas rendre hommage à un de mes pères spirituels. Quoi. C'est pas possible.
C'est parfait. On va écouter maintenant Pierre Sureau.
Oui, moi, je vais être s'il vous plaît. Compte tenu de l'heure.
Je
vais dire 2-3 choses. Mon histoire personnelle n'est pas très intéressante. Enfin, j'étais moi aussi à l'université. J'étais assistant. J'avais fini mon service militaire en décembre 67. Et j'avais retrouvé mon poste d'assistant que j'avais occupé... une année avant, et puis ça a effectivement beaucoup bougé chez nous, parce que j'étais en sciences économiques, et à l'époque c'était une faculté de droit et de sciences économiques, et on a fait scission très vite, hein, ça a été un des premiers actes de mai 68, c'était de faire scission avec la fac de droit, et de décider de la séparation de sciences éco avec le droit. À l'époque ça paraissait très révolutionnaire, les économistes, effectivement, les profs d'économie n'avaient jamais de robe, contrairement à beaucoup de profs de droit, qui se faisaient introduire en plus par un appariteur, très souvent, monsieur le professeur, etc. Donc, on donnait l'impression de modernisme ou de modernité, un mot pas très agréable à entendre depuis un certain nombre d'années. Et... bon, voilà. Et ce qu'il y a eu d'intéressant, ça a été l'organisation d'assises nationales, effectivement, des économistes, plutôt des économistes critiques, inutile de le dire, avec des gens qui sont devenus connus par la suite, comme Dominique Taddei ou d'autres. Et ça a été intéressant. Il y a eu des débats très intéressants, effectivement. Malheureusement, il n'en est pas sorti grand-chose après, par la suite. Hein, la science économique française est restée dominée par... les banquiers, les financiers et la droite traditionnelle, disons, pour résumer. Mais ça a bougé beaucoup, effectivement. Et après, il y a eu l'Association pour la critique des sciences économiques et sociales qui s'est créée dans les années 70. Bon, voilà, pour la petite histoire de chez nous. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a longtemps, on se moquait de 68 et des années qui ont suivi, en parlant de la réunionnite, de la création des commissions, mais ça n'a jamais été pire que maintenant. C'était bien, bien moins pire que maintenant, hein, les commissions et les réunions qui durent jusqu'à plus soif. Bon, mais ça permet d'avoir des présidents de commissions, c'est intéressant. Et ce qui m'a frappé aussi quelques années plus tard, c'est qu'un des dirigeants du mouvement en économie à Poitiers, qui était professeur, quelques années plus tard, au cours d'une, je sais plus, c'était un conseil scientifique ou quelque chose comme ça, de la fac, enfin, ça devait être à propos d'une répartition des cours, quelque chose comme ça. Puis on n'était pas d'accord, il y avait des engueulades entre eux. Et il a dit, ben, si c'est comme ça, on va procéder dans l'ordre du tableau. C'est-à-dire le grade le plus élevé, le plus ancien dans le grade le plus élevé en premier, etc., etc., quoi, pour le choix des... Bon, c'était frappant, quoi, devenant d'un des meneurs, si on peut dire, de mai 68. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que mai 68, ça a été qu'un moment, ce qui m'apparaît beaucoup plus important, c'est les années qui ont suivi, effectivement. On a vécu à la fois à l'université, hein, les manifestations les plus dures à Poitiers, ça a été dans les années 70, hein, 71, etc. À l'IRTS, j'ai un grand témoin qui n'est pas Patrick Balkany ici, mais qui a connu cette effervescence à Pontachard et qui a été très riche, hein, qui a été très riche, comme a été mai 68 à l'université, à mon sens. Et effectivement, chez nous, je crois que contrairement à la médecine, il y avait effectivement un regard aussi sur le monde et sur la politique au sens large. Et je crois que tout ce qui est sorti après, c'était vraiment un vrai bouillonnement sur le plan de la santé. Au début, en mai 68, il n'y a pratiquement rien eu concernant la santé et les réflexions sur la santé, la médecine, le pouvoir médical, etc. Mais c'est à partir du début des années 70... Et en particulier ce bouquin de Jean-Claude Pollack qui s'appelle « La médecine du capital », qui estime que politiser le fait médical, c'est trouver ce qui, dans la maladie, malgré l'écran de la médecine, proteste contre l'ordre social et par conséquent, dans sa conscience élaborée, le menace. C'est pas mal, hein, on rejoint Tony Lennel. Mais effectivement, il y a eu, effectivement, dans les années 70, il y a eu vraiment une profusion à l'ordre de bouquins qui ont été oubliés. Hein. Il y avait tous les articles. Il y avait une revue qui s'appelait Tant qu'on a la santé, TANKO, etc. Et Maspero en a publié les articles les plus importants en 75. Il y a eu Guy Caro, La médecine en question, ça devait être en 71 ou en 72. Il y a eu Illich, Némésis médical, hein, l'expropriation de la santé. Il y a eu. Alors là, par exemple, aussi, dans les petits opuscules, La santé, notre affaire, c'était Travailleurs en lutte. j'ai pas l'année, je l'avais trouvé, je ne sais plus où, il y a longtemps. Enfin bref, moi, à l'époque, je ne m'intéressais pas à la santé en tant qu'objet de recherche. Hein. Je faisais ma thèse d'État sur les disparités régionales de salaire, et c'est quand j'en ai eu fini... quand j'ai eu soutenu en 73, que je me suis intéressé plus directement à la santé à travers, effectivement, ma thèse complémentaire qui était consacrée à l'inégalité devant la mort, l'inégalité sociale devant la mort. Et donc, à partir de là, ben, j'ai effectivement lu tout ça. Enfin, moi, bien plus. Hein, j'ai retrouvé ça dans mes bibliothèques, évidemment, mais j'en ai d'autres. Et effectivement, ça, je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à la discussion qui avait affleuré tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je crois que on sait que la santé et le médical, c'est une relation parmi bien d'autres. Hein, et que la médecine joue un rôle, mais joue un rôle parmi d'autres. Que l'état de santé, c'est complètement plurifactoriel. Que l'environnement, alors c'est à l'époque aussi que René Dubos a écrit, hein, sur, je ne sais plus comment il s'appelle, son bouquin, sur l'influence de l'environnement, effectivement. Il y avait Escande, Jean-Paul Escande dans la même ligne, un peu en France, mais moins travaillé. Et je crois que c'est ça. Et par rapport au psychiatre, Jean-Jacques, moi, ce qui me frappe aussi, c'est l'ouverture, parce que je vous fréquente depuis un certain temps, quand même, à travers le suicide, enfin l'étude sur la recherche sur le suicide. Les psychiatres aussi, mais les médecins aussi, se sont ouverts, effectivement, à autre chose qu'à leur petit truc, qu'à leur petite discipline. Et ils ont compris, effectivement, que, par exemple, le suicide, eh ben, il y a aussi plein de causes sociales qui expliquent le suicide. C'est pas seulement du psy. Hein, c'est du psy in fine, si on veut, mais
Alors ça, je crois que c'est important. Enfin, c'est important, même si, et ça a changé les pratiques, effectivement, je pense, des médecins et des psychiatres. Et il me semble que cette prise de conscience, elle est, même si je suis pas compétent, mais il me semble que dans les études médicales, ça reste encore très marginal, hein, la psycho et la socio. Il n'empêche que il y a ça bouge, et ça c'est bien, à mon sens. Voilà, en gros, moi ce que je voulais dire très vite, hein, c'était l'homme et l'adaptation au milieu, oui, René Dubos. Alors il y a eu toute une critique politique, effectivement, de la médecine de classe, hein, de l'hôpital, devant préserver l'ordre social. Alors évidemment, c'était souvent, si vous pouvez relire Pollack, c'est très travaillé, c'est très chiadé, même si on n'est pas d'accord avec beaucoup de ce qu'il dit, mais ça permet de réfléchir et de réfléchir à beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur notre santé, etc. Alors j'avais amené ça aussi parce que c'est assez quand même marrant quand même, hein. C'était le collectif intersyndical sécurité des universités Jussieu, CFDT, CGT, FN, danger amiante, hein. C'est paru en 77 et l'université de Jussieu est toujours pas finie de désamianter. Alors là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça fait plus de 20 ans que ça a été écrit et publié par Maspero. Enfin, c'était quand même... Tout le monde le savait. Enfin, moi, évidemment, j'avais lu tout ça à l'époque, déjà. Et les études américaines. Et, bon. Voilà, bon... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand-chose, finalement. Ce qui me paraît dangereux, quand même, c'est le retour des robes dans les facultés. La rentrée solennelle de l'université qui avait disparu après mai 68, elle est revenue. Tout ça, c'est de la para, c'est de la forme, et ça ne me paraît pas important. Et je trouve dommage qu'on accorde autant d'importance à des choses comme ça. Le respect des gens, des enseignants et des enseignants pour les étudiants, c'est pas à la cravate, au costard, à la robe, ou etc. Enfin... Et je crois que c'était ça, mai 68 aussi. C'était justement le refus de juger sur l'apparence, dans un sens ou dans un autre. Hein. Et il y a eu tout ça, effectivement. Pour moi, ça a été effectivement une période extrêmement riche, et encore plus les années 70. Alors effectivement, après, il y a eu, ça s'est éteint, mais il y a plein de choses qui sont restées quand même, me semble-t-il. Et qui sont... Alors, je m'étais posé la question aussi, puisque c'était mai 68 et la santé... Quelle répercussion mai 68 a eu sur la santé, sur l'état de santé de la population, parce que par ailleurs j'étais démographe aussi, et bon, apparemment sur les indicateurs qu'on a, d'abord des indicateurs de morbidité, d'état de santé, on n'en avait pratiquement pas à l'époque, ça se faisait pas, c'est depuis que les organismes se sont multipliés et qu'on arrive à avoir des choses intéressantes. L'indicateur principal de l'état de santé, c'était la mortalité. Bon, la mortalité, elle n'a pas augmenté après mai 68. Ça ne veut pas dire que si c'était rien passé, on ne peut pas savoir. Mais enfin, il n'y a pas eu de répercussions apparentes sur, malgré le bouleversement de la société française dans sa profondeur, hein, de la remise en cause de toutes les valeurs, des normes traditionnelles, anciennes, qui a amené effectivement, à partir de là, l'augmentation des divorces, la baisse des mariages, etc., etc. Et une remise en cause de l'autorité dans la famille. Hein, ça a été effectivement, là sur un plan plus précis, effectivement, c'est à partir de là, même un peu avant mai 68, qu'avait commencé à augmenter le suicide des jeunes. Hein. Et dans l'ensemble de la société, il y a eu une augmentation considérable des suicides de 76 à 85-86, hein, de 40% à peu près, hein, une augmentation énorme. Et qu'on peut analyser comme effectivement, là, du coup, au bout d'un certain nombre d'années, parce que ce bouleversement, il s'est répandu, il s'est diffusé dans toute la société, comme effectivement un malaise très important, malaise social très important. Et l'élément famille qui paraît effectivement très important dans le suicide, la protection familiale, disons, se serait reconstituée, c'est mon hypothèse, se serait reconstituée sous d'autres formes, plus égalitaires, etc., moins autoritaires, progressivement, devant effectivement par ailleurs le chômage, etc., tout ce qui menaçait la famille. Bon. Par rapport à ça, je venais de penser à quelque chose d'autre, mais je ne sais plus quoi. Oui, ça me faisait penser à quelque chose d'autre qui est, vous savez, les enquêtes sur le moral des Français. Hein, on en parle souvent, il est toujours de plus en plus bas. Moi, je me demande si, à la base de tout ça, de ce mal-être qu'on mesure aussi par d'autres, des résultats de beaucoup d'autres enquêtes, du CREDOC, par exemple, ou d'autres organismes, si ce mal-être, il ne vient pas de mai 68. S'il n'y a pas eu un espoir qui a été encore plus fort et qui s'est apparemment matérialisé politiquement avec 81, mai 81, et avec ensuite une désillusion, un espoir qui a été immense chez beaucoup de gens, y compris les gens qui votaient à droite. Il y avait quand même quelque chose qui venait de 68, à mon sens. Hein, et que par la suite, eh ben, on est retombé on retombe de plus en plus, mais... Et je me demande si ce mal-être qu'on mesure depuis longtemps, hein, depuis plus de 20 ans maintenant, hein, il n'a pas son origine finalement dans l'espoir immense qui est né de 68. Mais et l'espoir d'une vie, d'une autre vie, changer la vie, enfin, etc. Tout ce que disait, ce qui se disait en 80 après. Bon, voilà les réflexions que ça m'a
fait. Je te remercie. Alors, une question qui pourrait se poser, puisque là, la démographie de la France a beaucoup changé. La provenance par l'immigration d'un grand nombre de gens, n'y a-t-il pas un grand clivage entre ceux qui seraient restés sur le rêve de 68 et ceux pour lesquels 68 est absolument inconnu? Peut-on transmettre ce rêve à la population qui n'en a jamais entendu parler?
Non, à mon sens, non. Il n'y a plus de... Justement, ça, c'est le rêve des générations plus anciennes et qui comprenaient les collégiens ou les lycéens, etc., de l'époque, parce que ça a quand même bougé. Et moi, je crois que ce rêve-là, effectivement, il n'existe plus, parce qu'on est dans une société qui méprise l'homme. Qui... Voilà. Et je crois que... à partir de là... où les inégalités sont de plus en plus fortes, où on admet, ça devient comme une... C'est une fatalité, effectivement, que ces inégalités sociales soient de plus en plus fortes, qu'il y ait de plus en plus de gens extraordinairement riches et de plus en plus de gens très pauvres qui vivent au ras des pâquerettes. Et ça paraît maintenant, on s'y habitue, on s'adapte. Ce qui, effectivement, en 75 ou en 80, paraissait invraisemblable, ça se passe comme ça.
Daniel,
être à la poste et dans des espoirs tranquilles.
Tu parles de rêve, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de réalité qui est restée? C'est-à-dire, moi, je pense... je pense, pour mon expérience personnelle et pour d'autres expériences de gens que je connais, c'est-à-dire que c'était quand même l'avènement, c'était quand même l'autorisation, c'était quand même une permission de penser. Je vis un peu comme ça, même si c'est passé par des ruptures, des cassures, et puis bon, il y a eu des blessures. Bon, il n'y a pas eu que du folklore autour, parce que intérieurement, chaque individu a vécu ce moment avec plus ou moins de force. Il y a ceux qui en ont gardé un souvenir d'une joyeuse rigolade avec lancer de pavés à partir de 18h30 jusqu'à 23h50. Avec Pau à la terrasse d'un café. Après, ceci dit, dans la façon de voir le monde, dans la façon de l'apprécier, de l'appréhender, de le penser, avec toutes ces possibilités qu'il y avait, moi je n'étais pas à Poitiers en 68, mais quand on reparle de la création de l'université de Vincennes, avec l'ouverture de cette université, avec des gens qui sont arrivés qui ont accédé, qui sont venus vers des débats, vers des lectures, vers des échanges, où il était permis de causer à la tribune comme ça, alors que c'était complètement impensable, de tailler une bavette avec Deleuze, avec Guattari, ou même avec Lacan, enfin peut-être moins avec Lacan, parce qu'il fallait quand même fallait suivre. Mais c'était quand même... Ça veut dire que je crois qu'il en est resté aussi quelque chose de cette autorisation et de ces aptitudes à pouvoir penser, à mettre les choses en rapport, à mettre les choses en synergie. Et alors,
C'est peut-être ça qui fait aussi, comme tu dis, Pierre, le désespoir de la baisse de morale des Français, sauf qu'il ne faut pas tout mettre effectivement aussi sur le dos de 68, parce que c'est à la fois plus on veut le dégager 68 et plus on réfléchit, on pense que c'est... Donc moi je pense qu'il faut aller voir de ce côté-là, de ce que ça a laissé, de ce que ça a autorisé et permis en termes d'élaboration un petit peu de pensée chez les gens. Et d'ailleurs on le voit bien dans ceux qui se disent on est des 68ards, des anciens 68ards, des post-68ards. Le regard qui est posé aussi un peu sur la jeunesse, c'est la question de la conscientisation de choses comme ça. Alors, c'est peut-être pas bien posé à bon escient, mais ce sont des indicateurs. Et je pense qu'on peut aller voir de ce côté-là à un moment. Ils étaient inquiets pour ta fille tout à l'heure, Pascal.
Le monde de ma fille tout seul.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas des éléments contradictoires dans tout ce que l'on vient de dire, dans la mesure où le chef de l'État même essaie de casser l'image de mai 68. Donc ce n'est pas sans arrière-pensée politique, une telle démarche est lancée, disons, actuellement, au niveau des jeunes, dans un moment où, effectivement, sans rechercher la similitude d'avant mai 68, parce qu'on parle de mai 68. Mais je crois que moi, qui étais dans le bâtiment et ouvrier du bâtiment, j'ai, travaillé avant mai 68 pour que mai 68, effectivement, existe. Alors, certes, ce n'est pas, la classe ouvrière qui a été au départ, le déclencheur de mai 68. Mais au départ, soyons réalistes, c'est quand même la classe ouvrière qui, du fait des conditions de travail, moi, j'arrivais... d'Algérie, avec une jambe en l'air. Ce qui veut dire que moi aussi, j'étais porté par cette volonté de changer les choses, cette volonté de ne plus être soumis, puisque je suis allé en Algérie, comme les 300 000, et comme les 3 millions, de militaires français, obligé d'y aller. Et les 30 000 morts qu'il y a eu, je les ai encore en mémoire. Est-ce que j'ai fait en Algérie? À un moment donné, mai 68 pour moi, mais également dans l'ensemble des meetings que l'on a tenus avec Tony Lillet, c'était exceptionnel, et je reprends vos propos, à savoir que dans les moindres petites communes, dans notre circonscription, de l'époque, des gens venaient nous voir parler avec nous. Mais ça faisait la première fois, certains maires nous le disaient, ça fait la première fois que, je vais dire n'importe quoi, Georges parle en public. C'est une expérience, que là, personnellement, j'ai vécu avec le docteur Tony Lenné, et reprenant ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que il n'y avait aucune barrière avec Tony Lenné. Quel que soit l'individu en face, il fallait savoir écouter l'individu pour pouvoir répondre à son niveau. Et ça, effectivement, c'était, y compris en matière de psychiatrie, un des éléments sur lesquels certains, vous le rappelez tout à l'heure, dans les films qu'il a fait, qui ont eu un certain succès parce que certains se reconnaissaient dans ses explications, les films avec Kerlin, pardon.
Y a-t-il encore quelques questions avant que nous... Madame, monsieur, pardon, excusez-moi.
C'est gentil de faire un idée de notre sensibilisation à la politique à 68.
On
n'est que deux jeunes ici.
Oh, mais nous, on est jeunes aussi.
Oui, non, il y a beaucoup de jeunes.
Nous, on est jeunes aussi. Tant qu'on est vivant, on est jeunes.
Voilà. Une histoire fait vivre.
J'ai vu, ils sont morts.
Et il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher aussi loin que mai 68 pour trouver des explications au marasme intellectuel actuel. On n'a pas besoin de vraiment se référer à 68. Ça fait 40 ans, c'est quelque chose qui est passé pour beaucoup, que la plupart de la population n'a même pas connu. Pourquoi se référer uniquement à ça? Pour mettre tous les mots dessus, quoi. Là, la volonté politique actuelle du président, qui dit qu'il veut liquider l'esprit, Il avait, à cette époque, il était encore adolescent et soi-disant, selon sa mère, elle l'empêchait d'aller manifester aux contre-manifestations. Quoi. Donc, c'est, ça ne me paraît pas très mature. C'est vraiment... on prend un bouc émissaire, quoi.
Je sais pas... enfin, je sais pas, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi. Ça veut dire qu'il faut... Enfin, j'en sais rien. Hein, c'est pas le président, c'est conseiller, mais enfin bon, ça change rien. Mais éradiquer, effectivement, complètement, tout ce qui peut rester de mai 68. Parce que je pense qu'il en reste quelque chose, mais pas grand-chose, quand même. Et c'est pour finir. Je crois que c'était ça, l'objectif. Alors bon. Voilà. Voilà.
Il y a des choses qui s'opposent.
Allez-y.
Oui. Non, mais il y a... moi, je me demande pourquoi les causes de mai 68. C'est une crise de croissance, c'est quoi? Bah, pas au niveau psychologique, au niveau économique, au niveau, je sais pas quoi. Ah.
Au niveau économique, il n'y avait pas de cause. On était en pleine période de croissance. Le chômage augmentait un tout petit peu, mais très, très faible.
Hein, un ras-le-bol.
C'était une crise de croissance. Effectivement, les étudiants étaient encore en très grande majorité fils de bourgeois. Mais bon, je sais pas ce qui a déclenché la réflexion. Effectivement,
l'information était muselée. Enfin, il y avait quand même.
Oui, il y avait. Alors, il y a eu comme argument, il y a eu l'argument démographique. D'Alfred Sauvy, ouais. Qui avait plus ou moins prévu 10 ans avant mai 68 avec un bouquin qui s'appelait La montée des jeunes, où il parlait justement, effectivement, il y a eu une augmentation considérable de la population jeune, démographiquement, hein, après les classes creuses d'avant la guerre et de pendant la guerre. Et donc ça bougeait quand même beaucoup, les places se raréfiaient quand même un peu partout, hein, dans les classes. D'élite, etc. Donc il y avait peut-être commencé à y avoir quelque chose là. Et puis, je ne sais plus, Vincent-Ponté avait écrit La France s'ennuie, mais je ne sais pas si ça. Quelques mois avant, hein, en janvier, je crois.
Indépendamment des pulsions étudiantes qui sont généralement constantes.
Ah, elles ne sont pas constantes.
Pas constantes, oui.
Ah non, elles ne sont pas constantes.
Les étudiants peuvent bien se manifester.
Les étudiants, 20 ans après, j'aime mieux vous dire qu'on pouvait leur raconter ce qu'on voulait. Ils disaient rien.
Indépendamment de ça, l'ancien je suis, et puis à l'époque où j'étais dans l'activité professionnelle, 68 n'a pas été prémédité. Et nous sommes entrés dans ce... Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais tout d'un coup, on nous a raconté qu'on avait fait la révolution sans le savoir. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors, c'est ce phenomène qu'on a... Après, on a exploité intelligemment, d'ailleurs, pour la plupart du temps, eh ben, ce qui s'était passé. On l'a adapté. Mais nous ne sommes pas ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas parce que 68 a existé, parce qu'on ne l'avait pas préparé.
Ah ben, ça, c'est pas une raison.
On ne sait pas. Il y a des lames de fond, quand même.
Non, je crois que c'était une étincelle, mais comme il pourrait s'en produire, peut-être.
Demain, oui. Demain, ben oui.
On ne sait pas. Quelquefois,
une dernière, peut-être, intervention.
Quand on a déclenché les émeutes en banlieue, ça a été une étincelle aussi. Hein, ça s'embrase.
Un point d'orgue. Un point d'orgue comme 36 a été un point d'orgue. Bon, il y a eu ça. Et alors après, il y a eu peut-être avant. Alors on peut faire de comparaison stricto sensu, mais je veux dire qu'il y a eu cette, à un moment donné, une sorte de concrétisation de choses qu'on ne comprenait pas. Les classes d'âge nombreuses, puis un faisceau de raisons qui sont arrivées. Et il y a eu ça. Alors au départ, c'était quoi? Les étudiants qui voulaient aller coucher avec les filles, hein,
oui, c'est
non,
ça,
non, non, il le faisait avant, mais il voulait aller dans les chambres des filles à Nanterre. Bon, parce qu'il le faisait avant.
Qu'est-ce que tu fais, toi, dans les chambres des filles
de Jocard? Ça dépend, mon
vieux. Et donc, bon, mais il y avait derrière tout ça bien d'autres choses, bien évidemment. Parce que on ne va pas résumer 68 à ça. Il y avait donc bien d'autres choses, et toutes ces choses que vous avez
Mais je veux dire, à part soit le glorifier, soit dire que ça ne sert rien du tout et qu'il faut en sortir, je veux dire, il faut le prendre comme c'est. Ça a existé, ça a quand même à un moment donné bousculé des valeurs. Et M. Gilles l'a bien dit pour.
J'en ai servi.
Oui, il y a quand même eu quelque chose. Et ailleurs aussi, enfin, je veux dire, les relations avec les patrons n'ont pas été forcément exactement les mêmes. Voilà, etc.
La contestation. Le droit à contester.
À l'école, enfin bon, moi j'étais au lycée, et au lycée, c'est sûr qu'il y avait. Alors, le maître n'était plus sur l'estrade, alors il descendait, il était plus sur l'estrade, enfin bon, c'était comme ça. Enfin, on allait.
Les notations ont changé, les notations.
Les parents qui étaient dans d'autres manifestations, nous on était avec les nôtres, et puis les parents étaient avec d'autres. Ouais. Bon, une histoire comme ça. Bon. Maintenant, c'est vrai que, comme tu le dis, Pierre, bon, malheureusement, on a beaucoup provoqué parfois les étudiants dans telle ou telle chose, ils ne nous répondent pas trop. Certains, on est un peu déçus, parce que, bon, mais pas toujours. Il y en a aussi, enfin, je crois qu'il faut garder aussi la morale. Hein, il y a aussi toute une classe de plus jeunes qui ont des choses à dire, qui ont envie de proposer des. Et de travailler, et de proposer d'autres idées. Je crois
qu'il faut être en mesure. Dernière intervention, si vous permettez.
Je ne crois pas beaucoup à la génération spontanée. C'est-à-dire, je ne crois pas beaucoup qu'il y ait tout d'un coup une étincelle qui arrive par miracle et qui crée un mouvement de masse, parce que c'est un mouvement de masse. Monsieur Gilles, vous avez souligné tout à l'heure que les étudiants en médecine ont suivi quelque chose, hein, voilà, ont boité le pas. Il faut quand même penser que c'est l'époque du structuralisme. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans la culture qui est effectivement dispensée aussi, dans les lectures des étudiants en sciences humaines de l'époque, il y a le structuralisme. C'est-à-dire qu'il y a enfin le structuralisme. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un appareillage théorique qui permet de penser les pensées. Et ça, c'est quand même une nouveauté intellectuelle importante qui se construit à partir de l'entre-deux-guerres et qui va petit à petit se raffiner, dirais-je. Voilà. Et ça, c'est quand même un mouvement important. Et c'est sans doute pour ça quand même que c'est passé par l'université au départ et par les sciences humaines au départ. Alors après, il y a eu aussi des freins. On n'a pas évoqué, par exemple, un frein extraordinaire, qui est quand même le frein du printemps de Prague. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement cette montée. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que quelque chose dans l'idéologie qu'on pouvait adorer, idolâtrer, eh bien ça pouvait être la catastrophe et on pouvait écraser les gens avec, quoi. Et ça a été un frein extraordinaire, ça, quand même. Ça ne veut pas dire qu'il reste rien, évidemment, de ce qui a pu se passer, mais ça a apporté ça me fait penser à l'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement pubertaire, mais qui ne se construit pas sur rien. Il ne se construit pas sur rien. Puis il y a le mouvement vraiment adolescent où il y a une retombée, quand même, hein. Un rapport à la réalité qui revient. Hein. Mais évidemment, il y a forcément des traces de tout ça. Hein. C'est pareil. C'est-à-dire que il n'y a pas de germination spontanée, mais il n'y a pas non plus de disparition. Refoulement. Mais...
Je ne sais pas s'il faut comparer quand même le corps social dans son ensemble à l'anatomie d'un corps et d'une seule personne individuelle. Je pense que c'est...
J'ai fait ça ?
Oui, un petit peu, il me semble. Voilà. Mais c'est toi, Asp, ce que tu as dit. C'est toi, Asp, c'est à toi de le dire.
Voilà. Non, on ne l'a pas. Allez.
Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention.
Ça sera en octobre, mais on ne sait pas encore quand.
Et de la qualité des échanges, des intervenants, et puis bien sûr, et du public. Excellent. Merci. On fait pas comme le bureau.